Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le grand jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy Jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur, et comme à mon habitude pour cette émission, je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus.
Salut Pionfesseur.
Il y a donc un Sortons le grand jeu de nouveau cette saison.
Eh oui, il y a un nouveau Sortons le grand jeu, enfin il y a une nouvelle saison de Sortons le grand jeu.
Voilà. Il y aura donc 5 Sortons le grand jeu.
C'est le 31e épisode qu'on fait aujourd'hui.
Et ce sera un épisode peut-être un peu spécial par rapport au jeu qu'on a choisi.
Ben oui.
On y reviendra.
Il y a plein de surprises.
Alors pour rappel, si jamais c'est quand même la première fois que vous nous écoutez, mais c'est peut-être pas une bonne émission pour commencer puisqu'elle est spéciale, on a dit. Mais du coup, Sortons le grand jeu, c'est une émission où on va parler d'un jeu de société qui a marqué, on va dire, le monde du jeu. Du coup, on en profite pour tisser une toile autour de ce jeu, donc que ça soit en parlant de son auteur, des jeux qui l'ont inspiré ou des jeux que lui-même a inspiré après, ou de pourquoi il est important, des trucs comme ça. Mais encore une fois, peut-être que ça change un petit peu aujourd'hui.
Peut-être. Dis donc, ça fait beaucoup de teasing.
Mais je vais garder le suspense pour le moment, même s'il n'y a pas un gros suspense, puisque vous avez sûrement lu le titre de l'émission. Mais bon, on va garder le suspense et avant, on va faire des remerciements. On va commencer par remercier nos donateurs et donatrices.
Oui, on va remercier Pyrus, Alès, La Famille Blue, Joël, Tespios, Bobby Fada, Fendoel, OlfenW, Gaum, Rubinocrite, Pauvre, Yann Le Proto, RetroFX, Laurent 36 et Johan.
Et on remercie également notre sponsor, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt qui ont toutes un café-jeu. Mais la Caverne du Gobelin, c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne. C'est sur cavernedugobelin.com. Et toujours avant de commencer l'émission, je te propose qu'on fasse des retours sur les commentaires de l'émission précédente qui parlait de Love Letter et de Seiji Kanai.
L'auteur de Love Letter. On a eu 21 commentaires, ce qui est pas mal.
C'est pas mal, c'est plutôt moyenne.
C'est la moyenne haute pour les sorties de grands jeux, donc c'est cool, on est bien contents. Alors, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui nous ont cité Sea Salt and Pepper comme un descendant... Enfin, en tout cas, un jeu qui s'inscrirait dans la veine des jeux minimalistes à la japonaise, tels qu'on les a définis avec Love Letter.
La mécanique est inspirée du koi-koi.
Il y a un petit côté koi-koi dans la mécanique.
Ouais. Un jeu japonais, hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais ouais. Pourquoi pas. Ça a l'air de cocher pas mal de cases.
En tout cas, ça coche pas mal de cases. Après, on va pas refaire l'émission précédente, hein, mais c'est un genre qui est pas forcément évident à bien circonscrire. Il y a Charbo75 qui nous parle d'une gamme, puisqu'on avait évoqué que effectivement c'était un style qui avait inspiré une gamme de jeux minimalistes ou de jeux en tout cas qui pouvaient être des jeux de poche. Et donc il nous parle d'une gamme qui s'appelle One Minute to Teach, qui est chez Allplay. Pourquoi pas. Après c'est pas le minimalisme matériel hein, chez Allplay. J'ai envie de dire, ils ont même plutôt tendance à aller chercher des matériels un petit peu originaux. Ça serait presque plus du minimalisme à la home game, tu vois. Ils aiment bien mettre toujours un peu de matériel un peu catchy.
Bon, après, ouais, c'était un peu un des points hein, dans le minimalisme à la japonaise. Des fois, il y a utilisé un petit gadget, un petit élément différent de mise en scène. Donc, pour moi, ça peut aller en vrai. Je pense que ça fonctionne à peu près. D'ailleurs, one minute to teach, ça veut dire une minute pour apprendre le jeu, quoi.
Oui, a priori, ouais.
C'est l'idée.
Ensuite, on a Chips qui visiblement est assez fan de Seiji Kanai hein, parce qu'il a fait un commentaire assez long. Alors, on va pas revenir sur tous les points, mais j'en ai dégagé quelques-uns. Il s'est interrogé par exemple sur la sortie de Wizard Cup, qui est un jeu dont on a pas mal parlé au débrief Essen de l'année dernière. Et c'est un jeu qui va arriver en fait en France chez la boîte de jeux, je crois assez prochainement. Si vous écoutez l'émission au moment de sa sortie, ça doit être genre le mois prochain ou dans 2 mois peut-être. Voilà, donc bonne nouvelle. Il nous a parlé aussi de Quickshot parce qu'on, je crois qu'on avait dû dire qu'on n'avait pas trop apprécié notre expérience de Quickshot dans l'émission, je sais plus. Et lui, il dit que en fait c'est intéressant à partir de 5-7. Et il regrettait que sur la boîte effectivement soit marqué de, je sais plus, de 2 à 7 ou
ouais,
de 3
à
7, je sais plus.
C'est écrit, ouais.
Et voilà, donc effectivement on l'a essayé à 4. Bon, on avait trouvé ça un petit peu trop chaotique à notre goût. Bon, peut-être qu'effectivement que ça change des choses, je sais pas, ou que du coup le KO est plus assumé, peut-être aussi à 5-7, ce qui est peut-être pas plus mal parfois. Il nous parle aussi du rachat de Japan Brand par Simone, et il dit qu'il il en espère des retombées positives pour les joueurs, j'ai envie de dire, hein, si je résume sa pensée, parce qu'il espère que via ce rachat, on pourra peut-être bénéficier de versions qui étaient jusque-là vendues que au Japon, des versions de Love Letter, hein, je parle, et pourquoi pas un retour de Lost Legacy.
Ça serait bien, ça. Même si moi, je m'en fous, je les ai tous, mais...
Et pour que les autres puissent en profiter.
Mais voilà, je pense à vous, auditeurs et auditrices.
Il y a Raiden qui nous parle d'une version de Love Letter qu'il possède, et il dit que c'est une version unique, alors je pense qu'il devait vouloir dire limitée, sûrement, mais peut-être que je me trompe, hein, tu nous rediras s'il faut. Il parle d'une version dans laquelle les personnages ont été remplacés par des personnages d'autres jeux de Philosophia. Parce que on rappelle qu'à l'époque, ça a été distribué par Philosophia à un moment. Et donc, par exemple, la princesse est incarnée par la scientifique de Pandémie.
Ok, c'est cool.
Autre épisode de Sortant le Grand Jeu, d'ailleurs, Pandémie. Vous pouvez retrouver...
Combien il y a de Sortant le Grand Jeu dans ce Love Letter-là?
Dans celui-là,
bonne question.
Sans doute pas beaucoup, je crois pas qu'on ait fait beaucoup de jeux qui étaient édités par Philo.
Biden nous le dira.
Ouais. Ensuite, on a eu un commentaire de Lorenzo qui nous dit « Que pensez-vous du podcast minimaliste à la japonaise ?» Alors, je suis pas certain d'avoir compris. Alors, je pense qu'il faisait une boutade par rapport à la longueur de l'épisode qui durait presque 3 heures. Je crois que c'était notre plus long. Hein.
Ouais, un autre plus long.
Sur effectivement un jeu minimaliste. Alors, c'est sûr que c'est un peu, ça peut être un peu paradoxal. En fait, il y avait beaucoup de choses à dire. On s'est rendu compte sur Love Letter. Vrai, quand on est parti, on se dit ça sera peut-être pas un épisode aussi consistant que d'autres. Et puis finalement, en dérivant et de fil en aiguille, on a trouvé pas mal de choses à raconter. Alors, est-ce que ça vous a intéressé? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, nous, ça nous a passionnés. Oui. Et en fait, il faut comprendre qu'on prend notre temps dans ce format. C'est un format qu'on veut. Presque canapé, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on se pose, on discute. Il y a beaucoup de choses qui sont préparées. Hein.
C'est
il y a
un cliché conducteur. Du podcast.
Mais il y a un conducteur qui est consistant. Hein. C'est vraiment très préparé comme émission. Mais une fois qu'on est face à face avec ton fesseur, on discute, on divague un peu. Et on accepte que ce format, il soit comme ça. En tout cas, enfin, nous, on le conçoit comme ça.
Moi, ça me fait même presque plaisir parce que j'aime pas les gens qui disent que justement, c'est un petit jeu, donc il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un gros jeu, donc il y a plus de choses à en dire. Bon, j'en ai parlé dans le hors-série quand j'ai fait ma petite pastille sur les reviews et les critiques. En fait, effectivement, la plupart des influenceurs font de la review et donc ils ont plus à dire sur les gros jeux parce qu'en fait, ils font de l'explication de règles quasiment. Donc c'est normal que ton explication de règles soit plus longue sur un gros jeu. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. En fait, nous, dans Sortant le Grand Jeu, on observe, c'est presque un podcast, je dirais historique... Je sais pas comment dire, tu vois, on s'intéresse plus à l'histoire du jeu, à qu'est-ce que l'auteur il a fait comme autre jeu, d'où viennent la mécanique, etc. Donc forcément, le nombre de choses à dire, c'est pas en fonction de la taille du jeu. Voilà.
Non, c'est ça, effectivement. Donc oui, c'est une question d'angle, en fait. Et on apprécie de prendre des angles variés chez Proxy Jeux. L'angle de Sortant le Grand Jeu, il est original au sens où, je pense effectivement, il est pas, on le trouve pas dans d'autres types d'émissions. Il y a Balado Ludique qui a fait des formats qui sont relativement proches,
ouais,
mais peut-être plus centrés sur une partie de ce qu'on fait dans Sortant le Grand Jeu. Après, il y avait eu aussi Playback, qui a une approche un petit peu similaire sur le côté, on prend une... similaire, mais en fait, c'est un concept un peu renversé.
Vraiment différent, justement.
C'est un concept un peu renversé, en fait. Mais en tout cas, c'est les deux trucs que je trouve les plus proches. Nous on a choisi d'avoir un angle assez large autour du jeu parce que tu l'as très bien dit en introduction. Voilà, on prend un jeu mais après on tisse une toile autour et donc cette toile elle peut nous emmener parfois très loin. Alors ensuite on a eu un commentaire de Max Rioc qui a été déçu par un passage qui a été mis dans le bêtisier dans lequel professeur disait contrairement à Ephios, ce gros jeu de merde.
Je disais qu'Ephios c'était un jeu de merde, voilà.
Ouais, voilà.
Ouh là là.
Et donc effectivement, alors c'est un passage qu'on a du coup décidé de retirer pour des raisons surtout de forme, en fait. Hein. Il faut bien comprendre. C'est surtout pour la forme qu'on l'a retiré, ce passage. On a tous des avis différents sur les jeux. Hein. Clairement, en général, les jeux qu'on cite dans Sortons le Grand Jeu, qu'on va citer en ascendant, descendant, c'est parce qu'on leur reconnaît une certaine qualité, une certaine forme. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'avais positionné effectivement dans les descendants parce que je reconnais non seulement des liens avec Love Letter, mais que je reconnais des qualités. Voilà. Donc c'est un jeu que moi personnellement j'apprécie. C'est un jeu que si on fait ça on apprécie pas.
Ouais, j'allais dire pas forcément des qualités parce qu'il y a des jeux on les cite aussi plus parce que bah ils sont intéressants juste parce qu'ils ont amené
un
truc.
Oui aussi, oui voilà.
Tu vois quand on a parlé de Cartagena,
c'est quelque chose qu'on juge comme une qualité.
Ah ouais.
Ils twistent un genre ou voilà quoi. Ils amènent une particularité ou une originalité.
Ouais mais au global c'est pas forcément un bon jeu. Enfin même tu vois genre dans les jeux d'avant. Tu sais, dans les jeux, pas les descendants, mais les ascendants.
Oui, oui.
Moi, je pense à Cartagena, quand t'avais, je sais plus, là, le Roll and Move,
où
t'avances jusqu'à
la
prochaine case de
la
couleur.
Oui, bien sûr, oui. C'était Candyland.
Candyland, un truc comme ça. Ouais, c'est pas très intéressant comme jeu, tu vois. Je pense que c'est même nul à chier, tu vois.
Ça reste intéressant historiquement.
Voilà, c'est intéressant historiquement, tout à fait. Pas forcément esthétiquement.
En tout cas, on fait des choix pour des critères variés. Voilà. Et donc, bon, cette phrase, professeur, il a le droit de la penser, hein, comme si ça avait été mon cas, j'aurais le droit de la penser. Maintenant, effectivement, dans le bêtisier, c'était sans doute pas très pertinent, surtout du coup, c'est hors contexte. Donc, évidemment, il n'y a pas. En fait, ce qu'on met dans le bêtisier, à la base, c'est plutôt des trucs du style. Souvent, c'est même plutôt pour se moquer de nous-mêmes. On met des trucs quand on bafouille, comme ça, voilà. Donc voilà, donc on s'est dit bah ok effectivement autant l'enlever du bêtisier. Maintenant on va pas épiloguer sur enfin on n'est pas là pour expliquer ce qu'est un bon jeu, ce qu'est un mauvais jeu. Du coup on va pas spécialement épiloguer sur le sujet du pourquoi toi tu trouves que c'est un jeu de merde et pourquoi moi je trouve pas spécialement que c'est un jeu de merde. Voilà. Et après il faut aussi bien comprendre que c'est pas parce qu'on pense qu'un jeu est mauvais. On pense que son auteur est mauvais.
Oui, oui.
Le contraire est vrai aussi.
Parce que c'est vrai que Max Rioch, tu vois, tu as commencé à dire des choses comme oh, il y a des gens qui ont travaillé dessus et tout. Alors ça, c'est pas du tout des bons arguments, tu vois. Et c'est pour ça que tu fais bien de préciser que c'est pas le fait que je trouve qu'un jeu est merdique qui fait qu'on l'a retiré. C'était plutôt la forme. Parce que en vrai, dans Sortons le grand jeu, quand on cite les jeux, on en profite souvent pour donner un petit peu notre avis. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. Je trouve ça bien. Je trouve ça nul. Et le fait que quelqu'un ait passé du temps dessus, ça ne rend pas un jeu meilleur ni moins bien parce qu'il a passé peu de temps dessus. Contre exemple, Codenames of Vladash Fati, il l'a fait en une soirée quoi, et c'est un jeu génial, tu vois. Donc c'est pas le temps que tu passes dessus qui fait que ton jeu est bon ou non. Il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Après moi, je reste ouvert. Si vous avez envie de savoir pourquoi j'aime un jeu ou pas, bah, vous venez sur le Discord, vous me posez la question. Plutôt que de faire les outrés direct là. Moi, je suis tout à fait ouvert au débat. À chaque fois que quelqu'un veut me poser une question, moi, je réponds en général, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais je pense que Discord, c'est quand même le mieux pour avoir des discussions. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Après, voilà, je pense que chez ProxyJeux, nous, on a à cœur quand même d'être assez éloigné des éditeurs et tout ça, pour justement avoir une parole libre et être capable de dire, voilà, ça, c'est de la merde. Ça serait bien qu'on puisse dire ça, quoi, de manière générale dans le milieu.
Après, alors moi je réponds quand même, alors parce que faut comprendre qu'on n'est pas forcément ultra d'accord sur tous les points avec professeur. Hein. Ça nous arrive, hein, voilà, on s'entend très bien, mais voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Moi je pense aussi que c'est quand même toujours mieux quand on dit que ce soit qu'un jeu soit bon, qu'un jeu soit mauvais. Je trouve que c'est toujours mieux d'avancer, de réussir à avancer quelques arguments. Donc là aussi, oui. Le truc, c'est que forcément, le truc sorti du contexte et tout, en plus, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Donc c'est aussi pour ça que moi, ça me gênait de le laisser. Et sûrement que je le fais régulièrement, de dire « Ah, ça c'est cool, j'aime bien comme jeu. » Mais en fait, j'aimerais avoir le réflexe de pouvoir dire « Ok, j'aime bien ce jeu-là parce que ceci, cela. » Voilà. Et j'aimerais du coup, dans la mesure du possible, qu'on y arrive. Tout c'est tout, hein, mais voilà. Et moi, oui. Le premier. En tout cas, je vais essayer de m'y appliquer un peu mieux.
Ouais, parce que, encore une fois, effectivement, les gens ne s'offusquent pas quand quelqu'un, pas forcément toi, hein, moi je parle en général dans le milieu ludique, quand quelqu'un dit, oh, ce jeu est génial. Oui, mais il argumente pas plus, tu vois.
Ah ouais, et il faudrait le faire aussi dans ce
et
sens.
Et à l'inverse, en fait, des gens qui disent ce jeu est une merde, il y en a plein qui le font. Mais c'est juste que là, c'était un auteur français, donc j'imagine que Max Rioch, il doit le connaître et donc il s'est senti offusqué. Je sais pas si c'est ça. Max Rioch, contredis-moi, j'en sais rien. Mais moi, je constate que quand je tape sur des jeux faits par des auteurs français, ça réagit plus. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a un lien de proximité. Voilà. Peu importe. La suite du débat sur Discord, si vous voulez. Moi, je reste ouvert et je suis prêt à changer d'opinion si vous arrivez à me convaincre avec des arguments. Et je te propose qu'on continue sur les commentaires, parce que là, c'était un peu long.
Ouais, donc commentaire suivant. Donc il y a Carl Harvey qui nous parle d'une version Cthulhu de Love Letter, qu'il apprécie particulièrement, nous dit-il. Alors, effectivement, je me suis rendu compte que j'ai pas cité Lovecraft Letter, qui est pourtant bien dans la liste. Peut-être que c'était pas dans la liste ou que j'ai récupéré, qui synthétisait déjà plein de versions, etc.
En plus, elle est assez connue, pourtant, cette version.
Je suis même à peu près sûr d'être allé sur la fiche pendant la préparation de l'épisode précédent. Bon, voilà. Celui, effectivement, ça existe. Il y a bien une version Lovecraft. Ça aurait été étonnant pour ce jeu qu'il n'y ait pas de version Cthulhu.
Bah ouais. J'avoue que en plus, j'avais fait le petit jeu en mode devinez quelle version n'a pas été citée. En fait, je pensais à Lost Legacy, tu vois, pour faire la blague en plein milieu de l'épisode. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit ah moi je pensais que c'était Lovecraft Letter tout en privé.
Ouais, c'est sorti en 2017 pour info.
Après, on a Apicha qui cite Mindbug en minimaliste à la japonaise. Pourquoi pas? Ouais, en vrai, il a listé tous les arguments et tout. Donc moi, je suis relativement convaincu.
Et comme quoi, parce que moi je crois que je l'avais mis au départ dans le conducteur et tu m'as dit ouais non, il a dû avoir des meilleurs arguments que moi.
Ouais, bah en fait je suis persuadé
que je l'avais mis dans le conducteur.
Le truc c'est que Mindbug, tu le mets plus dans la catégorie des descendants de Magic et des jeux de cartes à collectionner.
C'est ce que tu m'avais dit, c'est plus un descendant de Magic machin. Bah ouais, donc, mais je t'ai dit oui, mais c'est la version finalement minimaliste de Magic.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça devait être le seul argument. Apicha était meilleur que moi, bravo Apicha.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, je révise mon jugement. Vous avez vu, je suis capable de réviser mon jugement avec des arguments. Il a aussi, parce qu'on avait parlé donc de Loup-garou pour une nuit dans le podcast, il a précisé que Ted Alpach avait un gros rôle dans l'évolution de Loup-garou pour une nuit en rajoutant des rôles et tout ça. Moi j'ai envie de te poser la question, est-ce que t'es vraiment sûr de ça? Parce qu'en fait la plupart des rôles ils ont existé dans la version japonaise qui avait elle-même des extensions, mais je sais pas lequel est arrivé avant. Donc si t'as des infos, moi je suis preneur. Parce que j'ai quand même l'impression que les versions japonaises sortaient avant les versions américaines, quoi. Enfin, les versions Loup-garou pour une nuit, comme nous, on le connaît. Voilà, à toi de me confirmer. Et Apicha, il disait aussi que, apparemment, en France, il y avait du mal à avoir des versions de jeux thématisés Loup-garou en social déduction à cause de la pression que Philippe Despalières y faisait, vu qu'il possédait la licence Loup-garou de Tierce Lieu. Pareil, Apicha, t'es vraiment sûr de ça? Parce que moi, je sais que, du coup, Loup-garou pour une nuit, ça existe en français maintenant. Qu'il y a eu des jeux comme Lupus in Tabula, qui dataient d'il y a longtemps. Il y avait aussi... j'ai plusieurs exemples en tête comme ça, qui me reviennent pas tout de suite comme ça, mais de jeux thématisés un peu Loup-garou ou Mafia. Donc, ouais, peut-être que t'as raison, mais voilà, je nuancerais, parce qu'il y a eu quand même certaines personnes qui ont réussi à éditer des jeux comme ça.
Je crois qu'en fait c'est plutôt qu'il y a eu une période où c'était compliqué effectivement, parce que ça sautait vite effectivement sur le côté loup-garou. Tout le monde appelle Loup-garou Tierce Lieu le jeu des loups-garous, quoi. Donc il y avait un côté où ils craignaient comment on appelle ça, enfin c'est un terme juridique, hein, du phagocytage ou...
Ah oui, la concurrence déloyale peut-être.
Ça doit pas être ça, je crois pas.
D'accord.
Mais bref, le fait en tout cas de s'appuyer sur la renommée d'un autre pour, tu vois.
Ouais.
Et pour tromper éventuellement même parfois. J'imagine qu'il y a aucun procès qui a dû réussir à aller au bout, et du coup, c'est peut-être, il y a moins de pression peut-être aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est plutôt une vieille histoire, Apicha.
Donc passons au commentaire suivant. On a Munegu, ou peut-être c'est Munegu, ça se prononce à la japonaise, je ne sais pas, qui nous disait que effectivement l'esthétique minimaliste, ça se retrouve aussi dans d'autres aspects de la culture japonaise. Donc par exemple, il nous donnait plein d'exemples, hein, dans le genre des vêtements, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je me souviens que au Japon, en fait, ils ont carrément des noms pour leurs esthétiques. Et le minimalisme, je ne sais plus s'il y avait un nom. J'avoue que j'ai pas cherché. Mais il évoquait notamment une autre esthétique qui était le wabi-sabi, qui est une esthétique de l'imperfection. Donc c'est un peu particulier, mais c'est genre, tu vois, ils vont construire des temples avec un toit qui va être légèrement décalé, tu vois. Et voilà, c'est une esthétique, quoi. Et du coup, il disait peut-être que c'est pour ça qu'on retrouve ce côté un peu chaotique dans les jeux japonais, tu vois, le fait qu'à un moment, tout peut se retourner, tout peut changer, tu vois. Les gros coups de hasard, les gros coups de théâtre dont on parle.
Ouais. Ça me paraît un peu képlotracté, mais
pourquoi pas.
On sait pourquoi pas. Hein.
Intéressant en tout cas. Alors après, je veux juste citer rapidement le commentaire de Bartouf, Alors, il a fait deux commentaires, mais moi, je parle du commentaire final qu'il a mis. Ça m'a bien fait rire, vous irez le lire. En fait, c'est un petit truc un peu avec pas mal de refs en mode un peu, comment on dit, théorie du complot, quoi.
Ouais.
Sur Sortons le grand jeu. Enfin, voilà, vous irez le lire. Ça, en tout cas, tu m'as bien fait rire et ça montre que t'es un vrai fan de Proxy Jeux. Tu vois, ça fait plaisir. Tu suis le lore.
Le lore de Proxy Jeux.
Proxy Jeux.
Le lore qui est disséminé discrètement dans plein d'épisodes.
C'est ça.
Et ah, il voudrait vous démêler le vrai du faux dans tout ça.
Du coup, Bartouf, privé de joke pour toi, on verra à quel niveau de Yomi on est par rapport à toi.
Ouais.
Sur la préparation des Sortons le grand jeu. Et donc, dernier commentaire, alors c'est pas vraiment un commentaire, c'est sur le Discord. Il y a Frédéric Moulis qui m'a repris, qui m'a corrigé. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai dit que les Nano 9 Games, j'ai dit que c'était de Todd Sanders. Je me suis complètement planté, c'est de Alban Viard. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai mélangé dans ma tête.
Ça arrive.
Ça arrive. Bah voilà, écoute, Cyrus, on a fait.
C'est corrigé.
Voilà, c'est corrigé. Bah écoute, Cyrus, on a fait le tour des commentaires. Je te propose maintenant qu'on démarre l'émission. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh ben, aujourd'hui, nous allons vous surprendre. Nous allons parler du meule-cul. Et alors, du coup, de passons d'auteur.
Voilà. Il est possible que durant l'émission. Non, c'est même obligatoire, je vais dire Molki tout le long.
Molki. Mais c'est vrai qu'on dit meule-cul.
La vraie prononciation, c'est meule-cul. Mais j'ai toujours dit Molki et je suis trop habitué à dire mal le truc, donc je le prononcerai mal. Aïe, 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 aïe,
Kata.
C'est comme Quarto, Carto, là, on sait jamais.
Ah ouais. Bon, bah, allez. Allez, c'est parti! Alors, le Molki, c'est un jeu d'adresse qui se pratique en extérieur. C'est un jeu qui a été créé en 1996 par la société Tuoterenga, je ne sais pas comment ça se prononce précisément. C'est une société finlandaise. C'est un jeu qui se joue, j'ai envie de dire, à partir de deux joueurs et joueuses. Voilà, en tout cas, ça joue en équipe. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Deux équipes qui vont s'affronter. Le jeu est indiqué jouable à partir de 6 ans. Les parties vont durer environ 20 minutes. C'est un jeu qui est fabriqué en Finlande. Et c'est un jeu qu'on trouve toujours disponible aujourd'hui. Alors, il existe différentes versions, dont la version, la vraie version, celle qu'il faut vraiment avoir dans une cagette en bois,
l'officiel,
et actuellement pas trouvable à la caverne du gobelin, mais sinon c'est vendu 39,90€. Très bien, donc ça c'était la fiche signalétique. Puis on fait ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se joue le Molki ? Parce que j'ai cru comprendre dans une émission relativement récente de Proxy Jeux,
oui,
que tu as beaucoup joué au Molki.
Beaucoup joué au Molki, j'ai beaucoup expliqué le Molki, donc je pourrais te faire une belle présentation. Eh ben écoute, le Molki, donc c'est tu l'as dit, c'est un jeu d'adresse, mais il faut bien comprendre, se figurer que c'est un jeu d'extérieur où on va jouer avec des petites quilles en bois comme ça, sur lesquelles on va lancer un bâton en bois qui s'appelle le Molki. Alors c'est plutôt un cylindre, hein, c'est assez épais quand même. Donc on va lancer ce truc-là sur les quilles, chacun à notre tour. Et donc au début, toutes les quilles vont être groupées. Et le premier twist du jeu, c'est que les quilles, on va les relever à l'endroit où elles vont chuter, quoi. Donc si je projette une quille à 2 mètres, on la relève à 2 mètres, quoi. Donc le jeu va genre s'éclater au fur et à mesure de la partie, un petit peu comme au billard où toutes les billes sont regroupées au début et ensuite elles s'éclatent. Et ensuite, le deuxième twist, c'est que le nombre de points que je vais mettre... Si je fais tomber plusieurs quilles, bah je vais mettre autant de points que j'ai fait tomber de quilles. Donc je sais pas, j'en fais tomber 6, je mets 6 points. Par contre, si j'en fais tomber qu'une seule, je vais mettre un nombre de points qui est inscrit sur la quille. Donc chaque quille a un numéro de 1 à 12 dessus. En tout, il y a 12 quilles. Et donc si je fais tomber que la 11 toute seule, je mets 11 points d'un coup. Le but du jeu, c'est d'arriver à 50 points, mais genre tout pile. Si on dépasse 50 points, on retombe à 25. Voilà, là j'ai à peu près expliqué toutes les règles. En vrai, il manque une règle, c'est que si on fait 3 loupés, on est éliminé. Voilà, c'est la seule règle qui manque.
Bon, du coup, autant la dire.
Autant la dire. Voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est le Molki. Molki, voilà. Mais dis-moi, Cyrus, du coup, pourquoi ce jeu est important dans le milieu ludique ?
Eh ben, pourquoi ?
Pourquoi on l'a choisi ? Alors que c'est même pas un jeu de société, en vrai.
Ah là là, bah, ça on en reparlera peut-être plus loin. Mais est-ce que c'est pas des gens qui jouent tous ensemble à la même chose ?
Ça doit être assez important quand même pour qu'on le choisisse.
Je pense que c'est important, ouais. On va regarder déjà les faits qui peuvent nous donner donc des indices sur le fait que c'est un jeu important. Alors c'est un jeu qui a reçu des prix Alors là, pour le coup, hein, y aura pas de Spiel des Jahres, y aura pas de Golden Geek Award, etc.
C'est pas un jeu de société.
Alors, c'est effectivement un jeu qui est même pas référencé sur BGG.
Donc pas de classement.
Donc pas de classement BGG, effectivement. Sur Trick Track, alors comme ils sont encore en travaux, hein, j'ai pas cherché si la fiche avait été ressuscitée. Au niveau des prix, en tout cas, il a quand même eu des récompenses, hein, ce jeu. Il a eu le... Alors, je vais avoir des problèmes de prononciation, je suis désolé. Spiegelgold van het jaar. Donc ça, c'est un prix néerlandais, visiblement. Ainsi que le Green Toy of the Year Award. Donc ça, c'est des prix quand même qu'il a reçus. Donc en 2011 et 2015, respectivement. Et ensuite...
Toy, on peut préciser, du coup, c'est des prix de jouets.
Ouais, c'est des prix de jouets.
Voilà.
Mais il faut aussi savoir qu'il y a un grand prix du jouet qui est attribué à des jeux tels que, je sais pas, Concept par exemple, il y a eu un grand prix du jouet.
Ok.
Voilà. Donc on est sur une frontière effectivement un peu flou. Voilà. Ensuite, il a eu également un Seal of Approval de la part de The National Parenting Center et un Silver Award de la part de Busy Baby. Alors ça, c'est plutôt des... Alors c'est des prix qui sont mis en avant en fait par... c'est des prix qui sont mis en avant en fait par le... sur le site de l'éditeur. Voilà, c'est là que je les ai trouvés. Les deux derniers, en fait, il faut comprendre que c'est quand même plutôt des... c'est des prix décernés par des panels de testeurs. Donc c'est... En gros, il y a plein de personnes qui peuvent avoir ce truc-là, quoi. Tu vois, c'est un peu comme Dice Tower. Tu vois?
Ah oui, oui.
Bah,
oui.
Le Seal of Approval, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi.
Ouais, ouais, c'est voilà.
C'est un peu, ouais, ça, on a trouvé ça top, quoi.
Ouais. Voilà.
Donc, c'est pas non plus un truc ultra sélectif, quoi. Voilà donc pour les récompenses. En tout cas, c'est celles qui sont mises en avant sur le site de l'éditeur. Je dis pas qu'il y en a pas forcément d'autres, mais voilà. En tout cas, on est plutôt dans un registre, effectivement, de référence dans le domaine du jeu joué. Domaine un peu large et du coup on va retrouver des trucs un petit peu bizarroïdes comme le Green Toy, vous voyez, c'est le jeu écologique, quoi, parce que effectivement c'est fait en bois, etc. Enfin, le jeu joué, quoi, Toy. Donc effectivement pas de référence sur BGG, sur Trick Track de mémoire il y avait une référence, mais j'ai pas cherché de classement.
Forcément il y avait une fiche Trick Track, puisqu'il me semble que lors d'un Trick Track d'or, le Mulky avait gagné.
Voilà.
Et ça avait surpris tout le monde.
Et ben voilà, tu vois. Et ben voilà. Donc
enfin, pas le Trick Track d'or. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc où c'est les gens qui votent. C'est la Trick Track Cup, voilà.
Ah oui, le truc un peu à base de
d'applaudimètres.
D'applaudimètres. Et puis surtout de pseudo-corruption du public, quoi.
C'est ça, voilà.
Ouais.
Et du coup, c'était le Mulky qui avait gagné une année, il me semble bien, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, il y a bien forcément une fiche sur Trick Track.
Ouais. On peut regarder quand même au niveau des éditions, ce genre de choses, hein, les autres faits en tout cas. Au niveau des éditions, donc Tactic, qui est l'éditeur actuel du Mulky, a décliné toute une gamme du même jeu. Hein. Donc il y a la version que je citais avec la caisse en bois qui est dite Deluxe. Il y a une version mini aussi, qui est limite jouable dans votre salon, en fait, hein. Je crois que d'ailleurs c'est fait pour être joué en intérieur, ouais, en réalité.
C'est ça. C'est de la grosse merde, vraiment.
Il faut. Alors, je pense qu'il faut.
Là, je vais argumenter si vous voulez. Mais juste, en fait, le Mulky, c'est vraiment fait pour être joué sur un terrain de pétanque, idéalement. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, faut pas que les quilles elles s'éloignent trop loin. Faut pas qu'elles roulent trop. C'est pour ça que c'est très mauvais.
Juste milieu, en vrai, quoi.
Enfin, juste milieu, voilà. Si tu joues par exemple sur du sable, je sais qu'il y a des gens qui jouent à la plage ou dans l'herbe. C'est un peu chiant parce que les quilles ne s'éclatent pas assez, en fait, ne partent pas assez loin. Alors que si tu joues sur du macadam, par exemple, les quilles roulent trop et donc elles peuvent partir super loin et trop vite. Et donc le mini Mulky, c'est exactement ce problème. C'est que dans ton salon, en fait, les quilles, elles partent hyper loin. Et donc après, tu dois aller jeter ton petit Mulky.
Ah, t'es de la moquette, je te dis, pour ça, t'as pas de moquette.
Ah oui, c'est peut-être ça, mais après, tu dois aller latter les quilles qui sont genre dans un coin de mur que t'arrives plus à faire tomber. Ça marche juste pas, en fait.
Ouais, c'est pas... Ouais. En tout cas, ça... enfin, j'ai jamais vu en vrai, mais bon, ça... Ça m'attire pas.
J'ai testé pour vous, c'est mauvais.
Et il y a une version intermédiaire, en fait. Voilà. Et surtout, il y a un vrai sujet quand même qui montre, à mon sens, à quel point c'est un jeu qui a eu un vrai retentissement commercial. c'est qu'il y a des contrefaçons du Molcul.
Bien sûr.
Des contrefaçons. Alors, contrefaçons. C'est moi qui le dis avec mes mots. Voilà, c'est, il y a des imitations du Molcul, on va dire. Parce que contrefaçon, c'est peut-être pas le bon terme. C'est peut-être un terme juridique que je ne devrais pas employer. Mais, en tout cas, il y a des imitations du Molcul. Alors, de ce qu'on a compris, ce qui avait été déposé à la base par Tuo Teranga, c'est le mot Molcul, les dimensions et la règle. Donc la règle, en particulier, du coup, du jeu à 50, redescend à 25, du jeu descend une quille, ça fait... bref, je vais pas toutes les refaire.
C'est pour ça que, du coup, les repompes vont s'appeler genre jeu de quille finlandaise.
Finlandaise, voilà, exactement. Où on va retrouver des trucs du style, bah, le principe de scoring avec une quille, ça fait le nombre de points de la quille, et plusieurs quilles, ça fait le nombre de quilles. Voilà. Mais on va jouer sur, c'est pas 50 points, c'est voilà, 40. C'est ça. Ou des fois même on va rester à 50 et 25, mais ça s'appelle pas Molcul.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et alors nous on avait eu l'occasion d'interviewer Tactique, c'était Thomas Chevalier à l'époque si je dis pas de bêtises, lors de Débrézel et de Jeux en 2018, et à l'époque il nous avait dit que ce qui était déposé c'était le design de la boîte en bois, la règle du jeu et le nom. Donc là il n'y a plus les dimensions.
Ok.
Et ça s'explique puisque on vient de dire il y avait différentes versions, et la taille change, en fait,
ouais,
dans ces versions. Qui vont toutes porter le nom Molcul, pour le coup. Donc, sinon, ils se... Comment dire, ils se repomperaient eux-mêmes, je sais pas, ouais, un peu bizarre. Ouais. Je sais pas. Voilà, donc c'est pas forcément hyper clair, mais globalement, on sent que le mot Molcul, c'est important, quoi. C'est le truc qui est vraiment pas copié, pour le coup. Pareil, visiblement, la caisse... C'est un truc qu'on retrouve pas trop. Oui. Ça sent vraiment la vraie contrefaçon quand on vous le vend dans la caisse en bois, quoi.
Ouais, dans un sachet ou un truc comme ça, souvent. C'est...
Et donc, oui, en fait, vraiment, vous allez dans des magasins de sport, type Decathlon, vous allez trouver des variations du Molcul, quoi.
Je dis dans un sachet, dans un sac en toile, plutôt.
Oui, dans un sac en toile ou dans une boîte en carton, quoi.
Oui, oui. Ouais.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 2021, Tactique déclarait avoir vendu 1,5 million de Molcul en France.
On y vient sur le pourquoi c'est un jeu important, là, vraiment. C'est un succès économique en France.
C'est un vrai succès économique, ouais. En 2024, on recense qu'il y a eu 120 créations de clubs en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y sont encore. C'est-à-dire qu'en gros, en cumulé... si on recense tout, enfin je veux dire, on a recensé en 2018 il y a eu 3 créations, en 2019 il y a eu 12 créations, enfin je dis n'importe quoi, hein, c'est pour un exemple.
Ouais.
On arrive à 120 aujourd'hui, on sait pas dans le tas ceux qui ont fermé, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y en a, je dis n'importe quoi, 90, il y en a eu en tout cas 120 qui se sont montés dans l'histoire du Molcul en France. On estime aujourd'hui qu'il y a 2000 joueurs et joueuses dans ces clubs, qu'il y a 10 000 Molcul en service à l'intérieur de ces clubs. Donc sur la base de 10 000 Molcul pour 2 000 joueurs et joueuses, okay, si je ramène ça à 1 million et demi de Molcul, ça fait 300 000 personnes. Okay.
Hors des clubs, du coup.
Bah là, c'est tout confondu, pour le coup. Pour le coup, c'est tout confondu.
Moi, je pense qu'il y a... Après, là, ouais, ça serait les gens qui pratiquent régulièrement, quoi. On va dire. Parce que moi je trouve ça bizarre, 10 000 Molcul pour 2 000 personnes, déjà. Genre,
oui,
ça veut dire qu'il y a, pour chaque personne, il y a genre 5 Molcul, quoi. Genre, bon, ça faut vraiment être en club et être très vénère pour avoir besoin de 5 Molcul pour toi tout seul, tu vois ce que je veux dire.
Mm-hmm.
Donc, à mon avis, les gens qui ont juste joué au Molcul comme ça, qui jouent, tu vois, en famille pour rigoler, on tape largement dans le million, voire les millions, puisqu'il y a 1,5 million de ventes juste tout court, tu vois. Après, ouais, il y en a peut-être qui en rachètent une fois qu'il y a une quille pétée ou je sais pas quoi, mais... Moi, je pense qu'il y a largement plus de personnes qui ont déjà au moins touché au Molcul. On est dans des plusieurs millions, largement. Sans hésiter.
Ouais, bon, alors, en tout cas, on a donné les chiffres. Après, vous les interprétez comme vous voulez. Et autre chiffre qu'on peut donner, c'est qu'il y a 18 fédérations nationales recensées dans le monde.
Et dont une française, donc.
Dont une française, ouais.
En fait, on peut remarquer que, voilà, il y a vraiment une scène compétitive. Et notamment une scène compétitive française assez vénère, quoi. Et d'ailleurs, en France, on a déjà même organisé le tournoi mondial, enfin l'Open mondial de Molcul. Et donc tout à l'heure, tu me faisais la remarque parce que effectivement, moi, j'avais déjà participé à des tournois de Mulky et à cette scène compétitive. C'est pour ça, j'en avais parlé dans l'épisode sur le sport et les jeux. Donc je connais ces bails.
Voilà. Bon bref, en tout cas, c'est tout un tas de choses comme vous pouvez le comprendre. Qui font que au-delà même avant même d'avoir ces chiffres en fait hein, c'est on sent bien qu'il y a une forme de rayonnement quand même sur ce jeu. Après que ce soit un, moi je considère que c'est du jeu de société parce que je considère le jeu de société comme un terme assez large qui englobe beaucoup de choses hein. Donc c'est pour ça qu'effectivement on en parle dans cette émission. Tout comme on avait parlé de Magic hein, où tu faisais genre mais c'est pas vraiment un jeu de société.
Ouais, mais pour moi ni Magic ni Mulky sont des jeux de société.
Mais... voilà. Mais t'as quand même accepté d'en parler dans Sortons le grand jeu, comme dans l'autre.
Oui, voilà, voilà ouais. C'est pour dire Sortons le grand jeu, ça, en fait, on parle pas finalement que de jeux de société, on parle de jeux, on va dire de jeux en général importants, quoi. Et peut-être préciser aussi que c'est particulièrement des joueurs de jeux de société qui jouent au Mulky, je pense. Enfin, j'ai l'impression que c'est par là que c'est rentré en France.
C'est fort probable, oui.
D'où le Trick Track Cup Mulky Premier, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Il y a un vrai lien, il y a un lien très fort entre, entre le jeu de société et, pour spoiler la suite, et le Mulky par rapport à un jeu comme la pétanque, par exemple.
Voilà. Ouais, que ce soit, tu sais, aussi dans les festivals et tout. Tu vois, dans tous les festivals de jeux de société, t'as une petite partie Mulky, enfin, peut-être pas tous, tu vois, mais dans beaucoup, quoi. Donc je pense qu'il y a il y a une accointance qui fait que aussi c'est pour ça qu'on en parle dans Sortons le grand jeu, tu vois. Parce que
tout à fait.
Comme Magic, tu vois, Magic, il y avait un petit lien, beaucoup de joueurs de jeux de société ont joué à Magic et tout. C'est pas comme si on prenait un jeu vidéo, tu vois, là les jeux vidéo, ça me semble quand même il y a pas mal de jeux vidéo, je sais pas, genre je prends God of War, je suis pas sûr que beaucoup de joueurs de jeux de société jouent à God of War, tu vois. Donc voilà, c'est ça le lien.
Voilà, mais écoute, je te propose qu'on passe à la suite de l'émission, du coup. Maintenant qu'on a démontré que c'était un jeu important, on va pouvoir détailler un peu ça et montrer en quoi, peut-être de façon un peu plus subjective, c'est un jeu important.
Ok, ben on va passer à l'analyse du jeu maintenant. Donc, on va commencer par la genèse du jeu. Cyrus, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du Mulky?
Alors, j'ai tout simplement, je vais pas vous le cacher, repompé l'histoire qui est fournie par Mulky Info.
Waouh.
Voilà. Alors sur le site, donc sur leur site, ils expliquent alors ils disent 1984, mais je pense que c'est une coquille. Je pense que c'est 1884 parce que le reste est chronologique et dans le bon ordre. Okay. Et étant donné le contenu, hein, je pense que c'est bien 1884. Ils expliquent qu'ils recensent les premiers écrits qui parlent du Kika, qui est donc un jeu à base de quilles, qui est pratiqué en Finlande dans des villages de Karélie. Donc, la Karélie, c'est une région au sud-est de la Finlande. En 1922,
qui serait un ancêtre du Mulky, du coup, quand même.
C'est pas précisé, mais c'est l'ancêtre.
Sauf que genre, le Mulky que tu lances, il est genre hyper long, vachement plus gros que celui
C'est une batte de baseball.
Ouais, c'est une batte de baseball, ouais.
Ça ressemble à une batte de baseball.
Alors vraiment. Que pour vous imaginer, un Mulky, c'est plus, je sais pas moi,
ça fait 20 cm de long, non?
Ouais, un grand verre à bière. Peut-être un peu plus grand, okay, un petit peu plus
si
long.
Tu veux. Il y a plein de formes de verre à bière.
Un pichet.
Ouais, ça fait, ouais, c'est un cylindre, ça fait, ouais, une vingtaine de centimètres de long, je dirais, et puis ça fait 5 ou 6 centimètres de diamètre, quelque chose comme ça. J'ai pas les dimensions officielles, mais. Donc ça, en tout cas, ça se veut être l'ancêtre officiel du Mulky. Ouais. Voilà. Donc. Il y aurait en 1922, il y a une guerre civile qui expliquerait que il y a des réfugiés de Finlande qui s'installent dans d'autres coins de la Finlande et qui emportent avec eux le fameux Kika. En 1951, donc le président de la République finlandaise approuve une redynamisation du jeu. Ça va créer une forme de mouvement qui va emmener du coup le Kika à se répandre dans le pays. En tout cas, ça va redynamiser le jeu par la même occasion, quoi.
Ok, ouais.
Sûrement créer des fédérations, ce genre de choses, j'imagine. En 1996, donc, Tuo Terengas, donc la fameuse société, hein, va inventer en Finlande le Mulky. Donc, le jeu qu'on a expliqué, hein. Voilà. En 1997, ils vont créer un premier championnat finlandais. Sur le, donc, de Mulky, hein.
Mm-hmm.
Voilà. En 2000, il y a une association de muscle cul qui est créée en Finlande. En 2004, les premiers championnats du monde sont organisés. Ça se passe toujours en Finlande. En 2010, le muscle cul s'implante en Australie. Alors, j'imagine qu'en fait, c'est déjà implanté en Europe. Hein, ils le disent pas, mais évidemment, ça doit pas être important pour eux. En 2012, la France devient championne du monde de muscle cul. Alors, c'est important. Pourquoi ? Pas parce que c'est la France. C'est juste parce qu'en fait, c'est la première année où c'est pas la Finlande qui gagne, en fait.
Ouais. Et c'est dire à quel point, en France, on était vraiment chaud déjà à l'époque. Tu vois, mmh. Le muscle cul a été vraiment très diffus en France, et il y avait beaucoup de clubs qui ont été montés, quoi.
En 2014, ça atterrit aux États-Unis. Donc, on voit vraiment le côté rayonnement mondial, hein. Et en fait, les championnats du monde, jusque-là, c'était pas vraiment mondial.
Oui.
Je sais pas si ça l'est aujourd'hui, vraiment. Bon.
Bah, tout le monde pouvait venir, mais ouais, il y avait pas beaucoup de gens qui jouaient en dehors de la Finlande, quoi.
Voilà. Après, bon, il parle des récompenses qui ont été obtenues, hein, que j'ai citées précédemment. Et puis, voilà, en gros. Pour l'histoire du muscle cul. Bon, étant donné qu'on est sur une émission qui va avoir ses particularités, je vous dis qu'on pouvait passer en revue un petit peu cette façon que le muscle cul a eu de s'implanter un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour préparer l'émission, alors habituellement on fait pas ça, mais là je me suis dit que ce serait intéressant d'aller interroger des personnes qui connaissent vraiment bien le muscle cul. Donc j'ai pris la tâche de Molmo. S'il y a des gens qui connaissent le muscle cul, qui connaissent Trick Track, je pense qu'ils connaissent Molmo. C'est une personne qui a organisé, bah d'ailleurs, la Trick Track Cup. Il a organisé les Twitter Cup une année.
Oui, oui.
Twitter Cup. Et qui est un passionné de muscle cul, et du coup, je me suis dit qu'il avait sûrement des contacts, ce qu'il avait effectivement, et il nous a mis en contact avec Christophe CG, que du coup, bah, on profite pour remercier chaleureusement dans cette émission. Qui est en train en fait de rédiger un livre sur le muscle cul et qui donc nous a passé pas mal d'informations. Donc par exemple les adhérents, les clubs, ça c'est l'info vient de lui. Le 1,5 million de muscle cul vendu par Tactique, ça vient également de lui. Peut-être qu'on l'aurait trouvé, mais bon du coup j'ai pas eu à chercher.
On te fait confiance, Christophe.
Voilà, on te fait confiance parce qu'on sait que t'as fait beaucoup de recherches, donc.
Ouais.
Bref, ce qu'il nous a expliqué, c'est que, a priori, le muscle cul a pas le même rayonnement, par exemple, en Finlande, qu'il peut avoir, enfin, que si on comparait avec la pétanque en France. Pourtant que c'est vraiment un jeu, pour le coup, qui a un rayonnement assez important en France, jusqu'à avoir des émissions de télé qui parlent de pétanque ou qui montrent des matchs de pétanque. C'est peut-être pas aussi fort, voilà, c'est juste qu'il faut comprendre, c'est peut-être pas aussi fort, quand même, le muscle cul, même en Finlande. Et, ce qu'il nous a expliqué aussi, surtout, et qui est quand même assez dingue, c'est que je rappelle donc que pour Tuatoranga, c'est ça le nom de la société, Tuatoranga, l'ancêtre du muscle cul, c'est le kika. Or, Christophe CG et ses comparses rédacteurs du nom de l'ouvrage que je vous redonnerai plus tard, hein, là je ne l'ai pas dans cet endroit de mon conducteur, ils ont trouvé en fait une vidéo diffusé par la télévision finlandaise en 1974, qui parle d'un jeu qui est nommé le Molka, ou peut-être Molka, du coup, j'ai pas la prononciation exacte, qui semble être quand même vachement plus proche du Molku que le Kika. Donc après en tout cas ce qu'on raconte sur Tuatoranga, c'est que le jeu a été créé par des formes d'itération, voilà. Après on va voir aussi, hein, dans les ascendants, qu'il y a des jeux, voilà, en prenant des morceaux à gauche à droite, bon, en fait tu peux faire le muscle cul, hein, voilà, c'est
ouais bah
maintenant est-ce qu'il y a des gens qui avaient eu connaissance de ce jeu là le Molka? Alors j'ai pas le détail des règles, mais il y a par exemple il y a les 12 quilles numérotées, il y a le lanceur, il y a la position de départ, il y a le fait qu'on va les relever et le système de score. J'ai cru comprendre que c'était le même. Je sais pas s'il y a le retour en arrière en revanche.
Ouais.
Mais le système de, il y a plusieurs quilles, ça fait le nombre de quilles et une quille c'est la valeur sur la quille. D'après ce que j'ai compris, c'est la même règle.
Donc ça fait peut-être partie de ces jeux qui sont juste une commercialisation d'un truc qui existait déjà de manière très proche, quoi.
Peut-être légèrement revisité ou pas, mais voilà quoi.
comme justement Time's Up, Les Loups-Garous, tout ça.
C'est ça.
Mmh. Ok.
Voilà, voilà. Pour là d'où ça vient. Donc c'est relativement flou. Il y a la formation officielle, on va dire. Et puis après, il y a des faits potentiellement contradictoires. Qui sont ben, qu'on pourra pas analyser plus que là hein. Après c'est parole contre parole, j'ai envie de dire.
Ok,
bon, on peut peut-être découper on peut peut-être passer du coup à la partie sur laquelle on sera peut-être un peu plus à l'aise, j'ai envie de dire, le découpage de, mécanique du jeu.
Alors bah qu'est-ce qui compose le multi? Et ben déjà c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de jeu d'adresse. Alors c'est une grande famille les jeux d'adresse, donc on pourrait dire que c'est plus spécifiquement un jeu de lancer. On avait déjà fait, je crois, le débat dans Pitch Car. Hein.
Bah, ce que j'allais dire, en fait, dans les jeux d'adresse, on a parlé de Pitch Car déjà, qui était un jeu de pichenette pour le coup.
Mais justement, la pichenette, toi, tu avais défini que la pichenette, il y avait un contact court, on va dire.
Contact bref. Ouais.
Bref. Mmh. Alors que le lancer, il y a une sorte de contact prolongé. Mmh. Puis surtout, je viens de réfléchir à une autre différence, c'est que le jeu de pichenette, en fait, le truc que tu pichenettes va rester au sol, va genre comme glisser, souvent. Alors qu'un souvent hein, voilà, ouais, pas dans le canon, mais alors qu'un jeu de lancer généralement ça vole quoi, le truc que tu jettes. Alors, ouais, ok, tu vas me dire non, le curling aussi ça reste par terre et c'est peut-être un jeu de lancer, tu vois, mais globalement j'ai l'impression que quand on pense à lancer pour le multi, en tout cas ça fait partie de cette catégorie où les trucs volent quoi, tu vois. On jette
vrai.
En l'air, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Plus comme par exemple on citera d'autres jeux similaires plus tard. On peut dire aussi que ça fait partie, alors moi j'appelle ça des jeux d'extérieur.
Je ne nommerais pas ça autrement.
Voilà, alors les Anglais, c'est marrant, ils ont plusieurs termes. Ils ont par exemple yard games ou lawn games, qu'on pourrait traduire respectivement par peut-être jeux de jardin ou genre jeux de pelouse, jeux qui jouent sur la pelouse. Voilà, ça, on le prend littéralement, mais ouais, nous en français, je pense qu'on est plus jeux d'extérieur, dans le sens où on joue dehors à ça, quoi. Le mini mulky, du coup, ça marche pas.
Et non,
ce n'est plus un jeu d'extérieur. Et sinon, bah, mécaniquement, le seul point vraiment notable du Mulky, donc hormis que c'est un jeu de lancer, généralement les jeux de lancer, le but c'est de faire chuter des trucs ou d'atteindre des trucs.
D'atteindre.
Donc là, en l'occurrence, tu jettes le Mulky en essayant d'atteindre une ou plusieurs quilles. Et le truc vraiment spécifique du Mulky qui le différencie des autres, bah, ça va être surtout cette mécanique de une quille renversée égale tu gagnes autant de points que la valeur qui est écrite dessus. Plusieurs quilles, tu gagnes le nombre de quilles qui est écrit dessus. On pourrait aussi dire le fait de les relever sur là où elles sont tombées, mais ça, ouais, ça fait penser à des jeux comme le billard ou des trucs comme ça où tu remets pas tout au même endroit à chaque fois, quoi. Donc ouais, cette mécanique-là, je pense qu'elle est vraiment très spécifique au Mulky et pour le coup, je suis pas sûr qu'on la retrouve beaucoup même, tu vois, dans des jeux de société, tu vois. J'ai pas trop d'idées de jeux de société où t'as une mécanique qui serait similaire comme ça.
Je suis en train de chercher.
D'une manière ou d'une autre,
ça s'entend pas quand je cherche.
Si t'as un truc, tu scores un nombre de points égal à ce truc, ou tu fais une capacité peut-être égale à ce truc. Alors que si t'en as plusieurs, c'est le nombre qui importe, tu vois.
Je pense qu'il doit y avoir ça en vrai dans des jeux de collection, non?
Ouais, ça ressemble à des trucs de jeux de collection, hein.
Ouais.
Mais dans les trucs de collection, en général, tu sais, c'est genre, soit tu en as des différents, soit tu scores des identiques, c'est un genre de truc comme ça, tu vois.
Et je pense qu'il doit bien y avoir un jeu de collection sur lequel t'as différentes couleurs et des valeurs en même temps, et du coup, si t'en as qu'un, c'est la valeur du truc, ou, tu sais, ou des systèmes, les plus proches, ça serait peut-être des systèmes où tu vas compter dans la couleur que la plus forte ou la plus faible, comme ça.
Ouais, les scoring à la Knizia, tu parles.
Ou tu pourrais avoir un truc où, effectivement, tu scores. Comment dire, si t'en as qu'un, tu scores la valeur de la carte, sinon tu scores le nombre de cartes. Je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir des trucs relativement proches quand même, mais sûrement pas beaucoup, hein.
Ouais, ça me semble bizarre.
Mais je sais pas, j'ai une espèce de sentiment d'avoir joué un jeu dans le truc dans lequel il y aurait quelque chose de proche, mais ça me revient pas comme ça.
Ce serait marrant de faire un scoring à la Knizia où tu scores le plus bas, mais que parmi les couleurs que t'as, donc pas les zéros, tu vois. Que parmi les couleurs que tu possèdes, tu vois. Genre, si t'as 7 jaunes et 3 violets, bah t'as 3 points. Même si t'as 0 rouge, tu mets pas 0, tu sais, normalement, dans les jeux de scoring à la Knizia, quand t'as 0, bah tu mets, dans une couleur, tu mets 0, quoi. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez un truc, mais moi, j'ai rien qui me vient en tête, en tout cas. Alors, normalement, après ce petit découpage, normalement, on parle de la thématique.
Et on va le faire parce que Cargo nous l'a demandé.
C'est vrai, Cargo il l'a demandé.
Donc dédicace pour Cargo, on va parler de la thématique. Donc qu'est-ce que tu penses du pain?
Du pain?
L'usage du pain dans le du pain, le bois. Hein,
ah, le bois, ouais.
Pour le faire la cagette et les
le quille et le lanceur. Je pense que c'est thématique parce qu'en fait, c'est comme si on était des bûcherons et on coupait du coup des arbres, en fait, c'est quand ça. On fait tomber
et
les quilles.
On est dehors et tout. En plus, il y a une espèce de relation au jeu qui est hyper forte, quoi. Qui nous met vraiment à l'intérieur du... Puis comme si on était dans la forêt, en fait.
Tu relèves les quilles là où elles tombent, c'est parce qu'en fait... Les arbres, ils vont,
repousser
à un autre endroit, même si tu le coupes, parce que, bah voilà, c'est, les arbres, ça se reproduit comme ça, quoi.
Ça te va, Cargo? Bon, voilà.
Bon, ok, il n'y a pas de thématique, c'est full abstrait, et puis voilà, quoi.
Et en cherchant bien, t'as vu? On était peut-être pas si loin. Je pense qu'ils ont raté le coche chez Tactique.
Non, mais ouais, c'est pas un jeu thématique du tout, quoi.
Non. Ils s'en foutent de la thématique. C'est comme, je sais pas, comme le billard, comme la pétanque. Ouais. Y a pas de thème.
Ouais, c'est. Ben, moi, j'appellerais ça du jeu d'arcade presque. Alors, pour faire hommage aux jeux vidéo d'arcade, tu sais, c'est du jeu où, comme Tetris, tu vois, y a pas de thématique. Ouais. C'est pur. Ou les jeux de rythme, tu vois, c'est du pur, jeu.
Gameplay. Ouais.
Pur gameplay. Voilà, pur gameplay. Mais sans que ce soit un jeu abstrait, vraiment. Tu vois.
Oui.
C'est plus comme la belote ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment du pur jeu, quoi.
Non, c'est vrai.
100% pur jeu. Plutôt que de réfléchir à la thématique, du coup, je te propose qu'on fasse un petit encart, genre, est-ce que c'est un jeu de société? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que tu veux qu'on catégorise un petit peu les choses, là?
C'est toujours marrant, en tout cas, de se poser la question. Déjà, il y a eu un dossier. On a fait un dossier sport et jeu.
Allez le réécouter.
Il y a des éléments de réponse là-dedans. Du coup, on refait une dédicace à Cargo qui avait fait quand même une splendide chronique sur ce sujet. Donc, allez la réécouter ou allez l'écouter si c'est pas déjà fait. Alors d'ailleurs, on a demandé à nos fameux experts. Parce que moi, je leur ai posé la question. Je dis, il faut que je pose la question troll. Est-ce que c'est un sport ou est-ce que c'est un jeu? Et visiblement, dans le milieu, c'est pas vraiment tranché. Il y a des gens qui sont pour dire que c'est un sport, des gens pour dire que c'est un jeu. Je sais que Christophe soulignait le fait que aujourd'hui il y a des clubs, mais il n'y a pas de licenciés. Ce sont des membres de clubs, des adhérents, des pratiquants, mais il n'y a pas de notion de licence. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on rattache au sport, par exemple.
Mais il y a une fédération.
Voilà. À côté de ça, il y a une fédération malgré tout. Donc ça c'est le camp des pour le sport. Il va dire bah ouais, mais il y a quand même des compétitions. Il y a une fédération. Il y a quand même une organisation autour de tout ça, avec des vrais championnats, des voilà. Et donc ça tend plutôt à aller du côté du sport.
Ouais, moi, j'avais vu naître la fédération. Je me rappelle le bordel que c'était et les débats de merde que c'était entre les gens.
Voilà, ouais. C'est des débats d'idées, donc c'est avec qui reposent finalement sur pas grand-chose, parce qu'au final, il y a autant des arguments d'un côté que de l'autre, j'ai envie de dire. Alors autant, oui. Je sais pas s'il y en a autant, mais en tout cas, il y a clairement de bons arguments d'un côté et de bons arguments de l'autre. Parce que je pense qu'il y a effectivement deux idées qui s'affrontent, qui tentent de coexister dans quelque chose qui s'est pas encore séparé. Peut-être qu'un jour il y aura deux choses qui se sépareront, je sais pas. Mais voilà, donc je pense qu'on tranchera pas la question, en vérité.
Ah ben moi je tranche, moi. Moi je pense que c'est 50% un sport, 50% un jeu. Je dis pas que c'est l'un, tu vois, c'est ni l'un ni l'autre.
Oui, donc, d'accord, c'est les deux. Je pense que moi, tu veux dire.
C'est à mi-chemin, tu vois, c'est les deux. Et en fait, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des définitions binaires ou d'opposer sport et jeu. En fait, c'est les deux à la fois, en fait, pour moi.
C'est intéressant, ouais.
Tu vois, c'est un sport dans la mesure où tu vois, il y a quand même un truc physique, même si, tu vois, c'est pas aussi vénère physiquement que d'autres sports.
C'est éprouvant comme plein d'autres sports.
Et en même temps, ça, il y a quand même des caractéristiques proches du jeu, comme beaucoup de sports, hein, comme, je sais pas, le football, pour moi, il y a quand même des caractéristiques proches du jeu, tu vois, genre, il y a des règles, il y a, tu sais, des systèmes de points, des trucs comme ça. En plus, comme on l'a dit, le Mulky, c'est pratiqué par beaucoup des joueurs de jeux, de société, en général, donc du coup, je suis pas étonné de le classer dans la catégorie sport. Mais par contre, là, moi, où je veux pas être d'accord, c'est de dire que c'est un jeu de société. Moi, je le classifie pas du tout en jeu de société, genre, c'est 0% jeu de société pour moi, tu vois.
Ouais, mais parce que encore une fois, on n'a pas la même définition du jeu de société. Moi, j'ai une définition très large. Moi, j'englobe effectivement tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, les jeux d'extérieur, les jeux de rôle. Voilà, pour moi, c'est des choses qui font partie d'une grande famille qui est le jeu de société.
Alors que moi, non. Est-ce qu'on fait le débat ou pas, je sais pas.
Bon, non, il y a pas plus de débat à faire.
Oui,
en fait.
Non.
Juste encore une fois, c'est de l'idée. Et à partir du moment où moi c'est je ça. Dis, pour moi c'est une grande famille au-dessus et en dessous, qu'est-ce que, enfin.
Moi, mon argument, c'est plus, j'observe l'usage, tu vois. J'ai vraiment l'impression que dans l'usage, ne serait-ce que tu sais, tu regardes les boutiques, elles vont classer beaucoup par rapport à ce que les gens cherchent, tu vois, dans leur usage du mot. Et donc, tu vois, généralement, le Mulky n'est pas dans le jeu de société. Le Mulky est vraiment dans un truc à part qui s'appelle jeu d'extérieur, ouais, un truc comme ça. Et pareil pour les jeux de cartes à collectionner, tu vois. C'est vraiment, il y a une genre de distinction. Et je pense que, tu sais, c'est même pas, tu vois, il y a vraiment des gens qui jouent que à des jeux d'extérieur et ils ont jamais entendu parler des jeux de société.
Ouais.
Et il y a des gens qui jouent que à des jeux de cartes à collectionner et qui jouent pas du tout à des jeux de société, tu vois. Donc, je pense que, tu sais, c'est vraiment un délire différent, de la part des gens. Après, moi, évidemment, je vous invite à jouer à tout. C'est toujours mieux de tester un peu tout. Peut-être que vous allez trouver un truc génial dans tout ça. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je classifie. C'est à la fois les boutiques, mais aussi, je pense que dans l'usage, les gens utilisent plus le mot jeu d'extérieur ou un truc comme ça.
Ok. Très bien. Eh ben, écoute, on va passer à la suite. On va parler des ascendants et des descendants de du Mulky.
Ouais. Alors, le premier ascendant qu'on peut citer, c'est bah, évidemment la pétanque. Hein, on en a déjà parlé plus tôt dans l'émission, enfin, on l'a évoqué en tout cas. Donc, c'est ce fameux jeu où on lance, bon, je pense que tout le monde connaît, mais on lance des boules de pétanque, du coup, comme on dit, hein, sur pour essayer de les mettre le plus proche possible d'une plus petite boule qui s'appelle le cochonnet. Mais donc, voilà, on garde cette idée de lancer, on va dire, d'une manière un peu précise. Alors, c'est un peu difficile de dire à quelle époque remonte ce jeu. A priori, ça remonte à l'Antiquité. Les Gaulois, hein, ils jouaient déjà à la pétanque a priori, mais c'est vrai que a priori j'ai vu, de ce que j'en ai vu, c'est un jeu qui est devenu vraiment populaire à partir de la Révolution. Pourquoi? Parce que en fait avant, il y a un moment, ça a été mystérieusement interdit et on ne sait pas pourquoi, mais c'était interdit de jouer à la pétanque pendant.
Okay. C'était dangereux d'envoyer des boules.
Ouais, je sais pas. Ben, les gens. Du coup, je crois qu'il y avait que les nobles qui avaient le droit de jouer à la pétanque. Et donc, du coup, c'est pour ça que suite à la Révolution, ben, d'un coup, c'était un peu la libération. Mmh. Et aujourd'hui, ben, c'est un des sports. Je crois que c'est le 6e sport le plus joué en France, un truc comme ça. Tu vois, c'est très 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 populaire. Et alors après, bon, je les cite maintenant, mais il y a plein de variantes de la pétanque. Donc il y a la boule de bois, il y a la boule bretonne, il y a les boules carrées même. C'est des boules carrées.
T'es sûr? Ouais. Elles sont carrées. C'est plus des boules.
Ah mais ouais, il y a la pétanque mais avec des cubes quoi.
Ouais.
Ce qui a l'avantage d'être jouable en pente par exemple.
Incroyable.
C'est à ça que ça sert.
Oui, fantastique.
Mais voilà, il y a plein d'autres jeux similaires. Un autre un peu traditionnel en France qu'on a, c'est le jeu de palais. Je sais pas comment t'appelles ça, le palais breton, le palais vendéen.
Il y a les deux en fait.
Ouais. Voilà.
Il y a deux religions. Les bretons ils jouent sur une planche en bois, les vendéens ils jouent sur une planche en plomb.
C'est ça.
Mais ça transporter c'est sympa la planche du palais vendéen. J'ai déjà vu des gens qui y avaient ça. C'est
bien dur. Bien fat. Ouais. Mais du coup là c'est marrant parce que pour le palais, vu que c'est en forme de palais, c'est différent le style de lancer, tu vois.
Mm-hmm.
Alors autant à la pétanque. Vu que c'est une boule, il y a un peu, allez, on va dire deux manières de lancer. Tu sais, genre main fermée, main ouverte, on va dire.
Autant par-dessus, c'est vrai. Par-dessous,
je sais pas. Ouais, par-dessus, ouais. Par-dessous. Le palais, je pense qu'il y a à peu près une seule bonne manière de le lancer, quoi. Mais on en a pas parlé, mais le Mulky, c'est vrai qu'il y a plein de. Vu que c'est un cylindre, il y a un peu. Genre,
ouais,
je sais pas.
Tu peux le prendre de différentes façons, un peu
comme 5-6 hein. Manières différentes de lancer, je dirais, tu vois. Ça, c'est assez rigolo de voir ça en tournoi de Mulky, de voir les différentes manières de lancer des gens.
Bah, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais le Mulky, il a l'avantage d'être plus accessible en fait que la plupart des jeux qu'on va citer là, quoi. La pétanque, alors c'est accessible, mais pour être précis, pour marquer des points, pour tu vas vite te faire défoncer, quoi. Ouais. À la pétanque par des joueurs qui jouent bien.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai, mais
c'est plus une, peut-être pas d'accessibilité, mais d'ouverture peut-être.
Oui, mais je trouve que le Mulky c'est un peu easy to learn, hard to master, quoi. Tu vois, parce que moi vraiment je vois la différence entre avant que je me mette à jouer en tournoi et après, quoi. Mmh. Ou vraiment rien que même stratégiquement. Bah, déjà, tu vois, à la pétanque, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de stratégie relativement au nom.
Il y en a en tout cas. Après, je saurais pas comparer pour le coup.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de stratégie au Mulky en tout cas. Voilà, je vais me faire engueuler par des gens joueurs de pétanque, mais ouais. Moi j'ai vraiment le sentiment que il y a une bonne manière de jouer stratégiquement, rien que ça, au Mulky, qui est pas du tout intuitive, tu vois. Tu vois, typiquement, un débutant, il y a la 12 qui est en dehors du tas, il va faire la 12, tu vois. Mmh. Ce qu'il faut absolument pas faire. Tu vois.
Bah, ça dépend des situations. Quoi.
Ça dépend des situations, mais genre, 95% du temps, faut pas le faire, normalement. Si on veut jouer en tournoi, hein, bien sûr.
D'accord.
Si tu veux jouer pour rigoler, bien sûr. Voilà donc pour toutes les variantes de la pétanque.
Alors, ensuite, on peut parler de la... Alors, en particulier, de la quille de Plogastel. Enfin, de Plogastel Saint-Germain. Faut être précis, c'est le nom complet du village. Mmh. C'est un jeu qui remonte, a priori, à avant le 11e siècle. Et c'est un jeu qui est vraiment très proche, pour le coup, du Molucu. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a 9 quilles. Il y a une grande quille qui vaut 9 points. Il y a 4 quilles moyennes qui valent 5 points. 4 petites quilles qui valent 1 point. Et en fait, la façon de marquer est la même que celle du Molucu. C'est-à-dire que si tu dégommes plusieurs quilles, tu vas marquer le nombre de quilles que tu as dégommées. Sinon, tu vas marquer la valeur de la quille. Sauf que bon, bah, c'est des valeurs en fonction de la hauteur des quilles. Quoi. Ouais. Et tu as le même système de retour arrière. C'est-à-dire que là, tu dois marquer 36 points. Et si tu dépasses, tu reviens à 18. Ouais, c'est quand même ultra proche.
Ultra proche, ouais. Vraiment, on est...
La grosse différence, c'est que tu lances une boule. Et que tu es censé... Alors, j'ai pas très bien compris la règle, mais t'es censé tomber sur la quille. Donc j'imagine que, étant donné que tu peux en faire tomber plusieurs, c'est en gros, la première chute doit être sur la quille, et après ça fait ce que ça fait, quoi.
Ouais, ok. Faut pas que ta boule, elle roule avant de taper une quille. Donc...
Voilà, j'imagine que c'est ça.
Ok, ouais. Intéressant. Mais ouais, du coup, c'est peut-être le vrai ancêtre originel du Molucu, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, donc, des jeux de quilles différents, en fait, dans le passé, il y en a eu pas mal. Il y a eu la quille du Pontieu, les quilles boulonnaises, quilles de 8, quilles de 9, quilles Saint-Gall. On dirait un truc, c'est de Perceval.
Je sais pas ce que j'allais dire, la quille d'Aquitaine.
Mais en fait, un peu chaque région de France a son jeu de quilles, avec ses propres règles, qui sont
différentes.
Ouais,
on est même parfois plus petit que l'échelle de la région, quoi.
Ah oui, bien sûr.
C'est assez local, quoi.
Ouais, tout à fait. Et tout ça, ça date un peu pareil d'avant, on va dire, 16e siècle ou avant, quoi. Tous ces trucs-là.
Ouais, c'est des choses qui sont pas évidentes à dater. Il y a sûrement des historiens de genre de jeux qui seraient plus calés que nous. Après, les sources sont pas évidentes à trouver sur ce genre de sujet, hein.
Mais du coup, disons que l'itération de jeu de quilles où on lance une boule la plus connue à l'heure actuelle, ça va être le bowling, évidemment.
Mmh.
Donc le bowling qui, lui, daterait du début du 19e siècle. Et donc là, on a plus ce système de score. Là, c'est juste le nombre de quilles renversées.
Ouais.
Il n'y a plus de valeur sur les quilles. Et on peut constater aussi qu'il y a une disposition des quilles qui est assez proche du Molucu en forme de triangle, comme ça.
Mmh, c'est vrai.
Comme au billard, hein, d'ailleurs, aussi.
C'est vrai.
Donc, peut-être que l'inspiration du Molucu vient un peu de là aussi, quoi.
Ensuite, on peut aller sur en s'éloignant un tout petit peu, mais dans les jeux de fléchettes, il y a un système. Alors, il y a des jeux qui s'appellent, on appelle ça les 0-1, parce qu'en fait, tu as le 301, le 401, le 501, ouais. C'est tous le même principe, en vérité. C'est que tu pars avec un score positif. À chaque fois que tu fais, si je fais 20, par exemple, je vais enlever 20 à ce score,
ouais.
Et le but, c'est d'arriver pile à 0.
Ouais.
Sinon, c'est pas que tu reviens à la moitié, ce serait très très long, mais en fait, c'est juste que ton dernier coup, il sert à rien, quoi.
Ouais, genre, si t'es à 19, et que tu fais 20, restes à 19.
C'est
quoi.
Ça, ouais.
Ouais, effectivement, puis les lancers, c'est aussi un jeu de lancer, finalement, les fléchettes. Oui. Puisque, encore une fois, il y a c'est aérien.
C'est aérien, et c'est porté.
C'est porté,
il y a le contact prolongé. Prolongé.
Ouais, effectivement. Et autre ascendant qu'on peut citer, enfin, c'est le cube. Alors celui-ci, on sait pas trop de quand il date. Ce serait probablement début 20e, mais on n'est pas sûr. Et donc ça, c'est un jeu suédois, pour le coup. Donc c'est aussi un jeu où il y a des quilles et tout. Alors je vais pas expliquer les règles parce qu'elles sont quand même assez compliquées. Mais grosso modo, faut détruire des soldats adverses, faut les renverser. Et avec cette particularité, un peu comme, je dirais, au shogi, où quand tu tues un soldat adverse, il vient dans ton camp, en fait. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, les soldats vont passer d'un camp à l'autre au fur et à mesure de la partie, donc ça peut être très long.
Il y a un affrontement en face à face, en plus. C'est-à-dire que la disposition est particulière, quand même, sur le terrain.
Oui,
se comparer à tous les autres jeux qu'on a cités là, si tu dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, les deux équipes sont du même côté, et puis il y a le champ devant avec les quilles ou autre. Alors que le cube, effectivement, il y a quand même cette disposition très particulière.
Et les trucs que tu lances, c'est aussi des cylindres, mais vraiment plus longs et plus fins qu'un Mulky, pour le coup.
A priori, pour le coup, le Kika est beaucoup plus... Enfin, le cube est plus proche du Kika, finalement, que le Mulky.
C'est vrai, ouais.
C'est quand même... ça, c'est aussi un truc un petit peu perturbant, je trouve, dans l'histoire du Mulky, mais bon.
Et un truc drôle dans le cube, c'est ce qui m'évoque la chronique que tu avais fait dans le hors-série, là, sur les morts subites, c'est que si tu renverses le roi au cube, t'as perdu direct.
Ah oui.
Ça, c'est drôle.
Ouais, un peu, bah là, pour le coup, c'est plus proche du billard américain, où il faut pas rentrer la neuf, quoi.
Exactement, exactement.
Ouais. La vite, pardon.
Ouais, le snooker.
Ouais.
Bah voilà pour les ascendants. Donc maintenant, on peut parler des descendants du Mulky.
Oui. Et bah là, en fait, on se rend compte que finalement, c'est un style de jeu qui est pas très... comment dire ? Sur lequel il n'y a pas beaucoup de propositions. Hein ? Contrairement, je sais pas, au jeu de draft, au jeu de...
Bah, peut-être parce que, t'as vu, on a cité beaucoup de jeux traditionnels qui remontent à très très loin, pour certains. Donc, généralement, les gens, ils ont l'habitude de jouer à ça, peut-être depuis qu'ils sont tout petits. Donc, tu sais, ça se transmet comme ça, et je pense que, du coup, ils restent sur leur jeu. Enfin, je pense que c'est difficile de trouver un marché, peut-être. J'en sais rien, en fait.
Ouais, mais je pense que commercialement, c'est pas évident, effectivement, d'aller faire son trou dans ce style-là. Et puis, c'est tout de suite un matériel particulier, quand même.
Faut jouer dehors et tout.
Faut jouer dehors, il fait pas toujours beau.
C'est ça, c'est moins facile.
Ouais. Et puis, il faut détrôner les classiques, quoi. Il y a la pétanque, typiquement en France, qui est quand même très très présente. Maintenant, le Mulky. Donc,
Puis, tu parles des jeux de draft, tu vois, les jeux de société, il y en a aucun qui détrône le Monopoly, quoi.
Oui,
malgré tout.
Il y en a pas beaucoup qui font 1,5 million de ventes depuis leur mise sur le marché en France.
Mais ouais, c'est vrai. Mais on en a quand même trouvé quelques-uns. Alors, on a gardé que peut-être les plus notables. Moi, j'ai noté la détanque, qui est l'espèce de version pétanque avec des dés. Alors, a priori, c'est sorti en 2016. Je sais pas trop ce que ça change par rapport à la pétanque. Honnêtement, j'ai jamais joué à la détanque, mais il y a des dés, c'est tout ce que je sais.
Genre, parce qu'il y a il y a les points, tu sais, sur les dés.
Alors, ouais, il y a des dés genre avec des points, et il y a des dés genre avec des effets. Du style, prochain tir, tu dois être à cloche-pied, j'en sais rien, tu vois. Mais après, je sais pas comment, par exemple, les points, ça marche. Est-ce que c'est comme dans Tumbling Dice, genre ça va être un multiplicateur? Ou est-ce que, non, j'en sais rien de comment ça fonctionne. Oui, expliquez-moi dans les commentaires les règles. Bon, c'est pas intéressant, il y a juste des dés, c'est tout. Expliquez-moi dans les commentaires si vraiment ça apporte autre chose d'intéressant, mais c'est, disons, la rencontre, peut-être, tu vois, avec jeux de société et jeux d'extérieur pour moi, tu vois, mais. Vite fait.
Après, on peut parler de Hit and Shot, qui est un jeu qui est peut-être plus proche du palais, pour le coup. Hein. Alors, en fait, les jeux qu'on cite là, ils sont relativement éloignés quand même du Mulky. Faut être clair. On les cite parce que c'est des jeux d'extérieur et que finalement il n'y a pas grand chose. C'est vraiment,
et de lancer,
ouais. Il y a vraiment pas grand chose en fait en vrai. Hein. Et donc Hit and Shot fait partie de ces jeux qui essaient de se mettre sur ce marché, j'ai envie de dire. Je pense que c'est plus proche du jeu du palais, en particulier peut-être plus palais vendéen, si elle coûte. Même dans le palais breton, de toute façon, les palais sont en métal. Là, on a des palais en métal, ils sont un peu coniques. Et du coup, je crois qu'il y a une histoire, donc il faut qu'il atterrisse sur le bon côté. Et il y a une notion de proximité qui le rapproche plus de la pétanque, si j'ai bien compris.
D'accord.
Bah, ou du palais, parce que ça ressemble à des palais. Et le palais, c'est pareil, il faut se rapprocher d'un point particulier.
Ok, ouais.
Sur la planche. Hit and Shot, c'est un jeu qui date de 2019, et pour le coup, il y a un auteur qui est crédité. C'est Guy Meslot. Voilà, qui est presque, j'ai envie de dire, auteur-inventeur, parce que, si j'ai bien compris, il était métallier, donc il a créé les pièces.
D'accord. Ouais.
Ensuite, on peut parler des Papates. Les Papates, c'est aussi un jeu de 2019, c'est un jeu de Nicolas Bonneau. Alors là, c'est quand même assez éloigné hein, du Mulky, on va pas se mentir. C'est plus proche de... je sais plus si on jouait vraiment comme ça au Pog, mais tu sais, le jeu où il faut se rapprocher le plus près du mur.
Ah, les billes. Moi, je jouais billes ça, comme ça.
T'as cette variante-là des billes, ok. Bon, bref, c'est des jeux dans lesquels il faut se rapprocher le plus près possible de quelque chose. En l'occurrence, là, ça va être une corde qui va simuler une rivière. Donc, on va envoyer d'assez gros palais en bois pour essayer d'être le plus proche possible de la rivière. Sauf que les palais suivants qu'on va jouer doivent être encore plus près pour être comptabilisé que celui qu'on a joué précédemment.
Ok, donc au début tu vas faire exprès de pas aller trop loin.
Bah il faut que tu ailles pas trop loin, mais en même temps il faut que tu essaies de faire en sorte que, parce que les palais qui vont faire des points, c'est les 3 ou 4 plus proches de la rivière à la fin. Si tu dis pas de bêtises, ça doit être 3, bon, peu importe. Et donc évidemment il faut quand même être relativement proche, quoi.
Ça me fait penser à cet ascendant de qu'on avait cité de Pitchcar, je crois, où tu sais c'était de la pichenette et pareil il fallait pas aller trop loin.
Ouais, c'est vrai.
Un genre de d'ancêtre de Tumbling Dice en fait, encore une fois. Parce que Tumbling Dice, pareil, si tu tires trop fort,
oui,
tu sors
si
du truc
trop fort,
et,
ouais.
Et t'es out, et plus tu vas loin, plus tu mets des points. Mm. Tu sais, plus tu vas loin sur la, l'espèce de, d'escalier.
Ouais, sauf que Tumbling Dice, il faut vraiment atterrir sur des endroits très précis.
Ouais,
là, c'est... finalement, le champ est relativement ouvert, quoi.
Ok, ouais. Et le fait de devoir faire plus loin à chaque fois, ça me fait penser à la route des vignes.
Ah ouais,
société pour
d'accord. Hein. Ouais. Bon après il y a pas mal de, oui il y a pas mal de jeux, enfin pas tant que ça, mais il y a des jeux qui utilisent effectivement ce système de pour que ton coup vaille quelque chose, il faut que tu fasses plus fort que précédemment.
Ouais.
Sinon il est carrément, il compte pas du tout, quoi.
Le Yahtzee, il y a ça dans le Yahtzee, je crois. T'as deux cases dans le Yahtzee, t'en as une qui doit être plus faible que l'autre.
Ah ouais.
Ouais. Il y a, bon, après il y a 15 000 variantes du Yahtzee.
C'est ce que j'allais dire, il y a des variantes aussi.
C'est peut-être dans le Yam,
je
mais
crois pas,
je sais qu'il y a deux cases. Ouais. Et il y en a une, en fait tu mets la somme de TD à chaque fois, mais faut que celle du, enfin il y en a une des deux qui doit être inférieure
est...
à l'autre,
ouais.
Sinon tu scores pas les points, quoi.
D'accord, ok, bon voilà.
Ok, marrant.
Merde. Alors après il y a quelques autres, je pense quand même aussi à Tocit qui est sorti récemment là, qui ressemble à un peu, qui est entre la fléchette et le, et ça joue plutôt, enfin ça peut jouer en intérieur, donc c'est pour ça qu'on l'avait pas mis.
Bon. Moi, je pense à un truc qui s'appelait le jeu du 13. C'est un truc très obscur. C'était, je crois que ça n'a jamais existé autrement que sous forme de presque de proto à Boulogne-Billancourt, tu vois.
Ah, peut-être.
Mais chercher des vidéos sur le jeu du 13, on dirait une espèce de pétanque, mais sur une grande table que vous devez payer 1500 balles parce que c'est fait de manière artisanale comme ça.
D'accord.
Voilà. Peut-être qu'en lui faisant de la pub, il y a plus de gens qui en voudront, tu vois. Et ça, le mec voudra commercialiser ça pour de vrai.
Wow.
Non, mais en vrai, ça a l'air intéressant. Ça me fascine ce jeu, mais trop cher. Mais on peut dire aussi peut-être on a une sorte de biais du fait que on est en France, tu vois, et que du coup là on a cité, je pense, que des jeux qui sont faits, enfin qui sont français, quoi, dans les descendants.
Il y a, je pense, encore une fois il y a un rapport au matériel dans ces jeux-là qui est hyper important, et on voit que c'est souvent des projets qui partent de façon artisanale.
Oui, voilà, ouais. Ça
et
dire.
Du coup, forcément, il y a un rapport à la proximité. Enfin, je veux dire, ce biais de proximité, il s'explique, quoi.
Ouais, ouais. Oui, parce que sinon, je pourrais citer, par exemple, le Tosenkyo, qui est un jeu japonais, sauf que là, tu lances un éventail.
Ok.
Et tu dois essayer de faire chuter un genre de je sais pas, de petite figurine sur un
avec pied, un éventail
sur
ouvert,
sur un genre de piédestal, un éventail ouvert. Donc, il y a vraiment une manière de le jeter. Hein. Faut regarder des vidéos parce que c'est indescriptible.
Faut regarder des vidéos de kung-fu là, non?
En gros, ils poussent avec leurs pouces comme ça le truc et ils sont, tu sais, dans leur position japonaise là où ils sont sur leurs genoux comme ça, tu sais. Et ils poussent l'éventail comme ça. Et quand ça touche le truc, selon comment ça tombe, tu mets des points d'une manière différente parce que ça fait des combinaisons comme au Mahjong ou au Hanafuda, tu vois, ces trucs de fou comme ça. Voilà, histoire de citer un jeu japonais. Mais pour dire que voilà, tu vois, le Tosenkyo, jamais. En France, t'en trouves un, tu vois.
Non, effectivement,
c'est un truc parler, trop traditionnel. Et je pense que, tu vois, même nous, là, on a cité, par exemple, la pétanque. Mm. La pétanque, honnêtement, je sais pas si tu vas, même en Allemagne, je suis pas sûr que ça joue à la pétanque, tu vois, ou en Italie. Mm. Bon, peut-être, hein, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est sûr qu'à mon avis, tu vas, genre, aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui joue à la pétanque, tu vois.
Ouais, ouais. Ah, c'est marrant, ces frontières qu'il peut y avoir sur ces jeux-là, qui est... frontière qui a été relativement abattue par le Mulky aussi.
Voilà, c'est ça que c'est là où je voulais en venir à la fin.
Pardon.
C'est que justement le Mulky, lui, par exemple, il est plutôt international, même si je pense que peut-être que la France, c'est quand même une très très grosse scène Mulky, quoi. Mm-hmm. Moi, à l'époque, on m'avait dit que ça avait surtout démarré en Bretagne, le Mulky. Les premiers clubs se sont faits en Bretagne. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque.
Grosse région de la quille, hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux de quilles qui venaient de Bretagne.
Je pense que c'est pour ça, ouais.
Bah, c'est pour ça, et en même temps, on pouvait se dire. Justement, ils ont déjà plein de trucs.
Donc, pourquoi
celui-là, quoi.
Ah, mais du coup, ils sont déjà bons et c'est pour ça qu'il y a des clubs.
Ouais, peut-être aussi.
Moi, je parle surtout du fait de la création de clubs, hein, pas du nombre de ventes. Attention. Mais ouais, la scène française Mulky, elle est assez vénère, hein, je te dis. On a assez vite organisé des championnats du monde et tout. Et et comment dire, monter au moins sur le podium des championnats mondiaux, tu vois. Bon, après aujourd'hui je sais pas parce que je suis plus, mais dites-le nous dans les commentaires si vous savez si on est toujours aussi bon au Mulky aujourd'hui. Ok, bah en tout cas nous avons fait notre petit tour des ascendants et des descendants. Comme d'habitude à ce moment-là de l'émission, on va faire écho à la chronique d'Acariâtre dans les chroniques numéro 100. Il nous avait parlé des trois genres littéraires d'Alastair Fowler, comme quoi à chaque fois qu'il y a un genre, il y a une œuvre innovatrice, une œuvre paradigmatique et une œuvre définitive. L'œuvre innovatrice, c'est celle qui va créer le genre. Paradigmatique, c'est la plus commune du genre, celle que tout le monde cite en premier, qui coche un peu toutes les cases du canon du genre. Et l'œuvre définitive, c'est la meilleure, la best à l'heure actuelle. Cyrus, pour toi, c'est quoi dans le jeu, on va dire le jeu de lancer
en extérieur.
Le jeu de lancer. Non, on va dire le jeu de lancer.
Le lancer. Bon.
Mais du coup, pas de pichenette, vraiment lancer.
Ah bah oui.
Quelle est l'œuvre innovatrice, paradigmatique et définitive pour toi?
J'avoue, je n'avais pas préparé cette partie, je me suis dit qu'on allait la sauter.
Non.
Bon, après, je dis ça, mais en même temps, la plupart du temps, je ne la réfléchis pas d'avance non plus. La pétanque, elle a l'air bien placée si vraiment... En fait, mon problème là-dedans, c'est que... Toi, autant sur les jeux qu'on traite habituellement, il y a un historique relativement court et c'est assez facile, c'est relatif, hein, d'aller trouver des trucs qui finalement vont pas au-delà des années 70-80, quoi. Donc on est à peu près confiant dans ce qu'on raconte, quoi. Autant là, on rentre sur le terrain des historiens et je suis pas ultra à l'aise, quoi. De ce qu'on a dit, la pétanque a l'air plutôt bien placée pour être Alors c'est sûrement pas la pétanque d'aujourd'hui, hein. Ça devait être sûrement avec des boules en bois.
Ouais,
et,
de ce que j'ai vu, c'est surtout les matières des boules qui ont changé.
Ouais, donc mais c'est fort probable que ça fasse partie des ancêtres, enfin que ça puisse être une forme d'œuvre innovatrice, au moins en tout cas sous le regard français, quoi, je dirais.
Ouais.
Après, je pense que c'est un peu trop compliqué de regarder ailleurs. En œuvre paradigmatique, si on dit voilà un jeu où tu de lancer de précision, je pense que c'est vraiment la pétanque en vrai, hein, qui va ressortir. Et en œuvre définitive, ben clairement, ce serait le Mulky. C'est pour ça qu'on en parle, je pense. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans le Mulky qui rend le jeu vachement intéressant. Effectivement, sans doute peut-être plus stratégique, comme tu dis, que la pétanque. Avec ce système, en fait il y a pas grand chose comme règle, hein, mais c'est ouais. Vraiment très très finement trouvé, quoi, ce système de deux manières de scorer, de retour arrière si tu te plantes, ça met une forme de suspense et ça laisse toujours une fin de partie ouverte, quoi, potentiellement.
Ouais,
donc il y a encore un jeu palpitant.
Il y a encore aussi un comme tu disais, une mort subite possible.
Ouais,
si tu fais trois ratés, t'sais.
Oui, aussi en plus, ouais. C'est vrai qu'on cite pas trop ce point-là, mais ça peut être important. J'imagine surtout en tournoi, quoi, quand il faut absolument que tu fasses un résultat particulier.
Ouais.
Ouais.
Le pire étant d'être à 49 points.
Avec une option. Là, effectivement, c'est un peu la loose. Ouais, ouais, ouais. Voilà, en ce qui me concerne, et de ton côté, Pionfesseur?
Pour l'œuvre innovatrice, ouais, je vais être comme toi, hein, je sais pas du tout, peut-être la pétanque, mais vraiment, comme tu dis, on peut pas remonter plusieurs millénaires en arrière pour vérifier, donc là, on ne sait pas. Œuvre paradigmatique, alors, je suis d'accord avec toi sur la pétanque en France, mais dans le monde...
Oui, mais j'ai préféré me cantonner à la France pour le coup.
Ah, parce que dans le monde, ouais. Je pense que c'est le bowling, hein, beaucoup plus...
Ouais, c'est vrai, ouais.
J'ai quand même l'impression que ça a un impact culturel plus fort du fait que c'est, genre aux États-Unis, le jeu le plus... Enfin, de ceux qu'on a cités, tu vois, c'est sûrement le jeu le plus représentatif, le plus représenté aux États-Unis, et donc, par leur hégémonie culturelle, je pense qu'ils influencent beaucoup. Mais voilà. Après, c'est vrai que quand tu présentes le Mulky à des Français, le premier truc que tu dis, c'est ça ressemble à la pétanque, tu vois. Tu vas voir, c'est une espèce de pétanque avec des bouts de bois, quoi. Œuvre définitive, c'est le Mulky. Pareil, évidemment, puisque j'en ai fait des tournois, c'est pas parce que j'aime pas le jeu, hein, tu vois, c'est parce que je l'aime beaucoup, au contraire. Et ouais, comme tu dis, je trouve le Mulky, en fait, ce qui est bien par rapport... Alors, j'aime beaucoup la pétanque aussi, hein. Mais par rapport à la pétanque, je trouve que ça rajoute ouais, vraiment un gros aspect stratégique qui a pas l'air d'être là au premier abord. Et surtout, ça crée beaucoup de situations. Tu vois, la manière dont le jeu s'éclate, la manière dont on arrive à des scores et tout, tu vois, par rapport à la pétanque où juste tu comptes les points, voilà, c'est tout. Là, en fait, il y a vraiment un truc, comme j'ai dit, tu vois, la situation d'être à 49. Tu vois, moi, je me souviens d'une partie où j'étais en équipe avec une pote et on était à 47. Et on a gagné en faisant trois fois la une.
Oh.
Tu vois. Et ça, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. C'est des situations comme ça où je me souviens d'une situation où on était en tournoi, où on est volontairement retombé à 25 juste pour bousiller une quille pour que les autres y terminent pas au tour d'après.
Ah oui.
Et tu vois, c'est des situations stratégiques de fou comme ça qui peuvent arriver au Mulky et qui sont absolument géniales, tu vois. Réfléchir à quel quille il faut pousser, dégager, nanana, pour finir en deux, trois coups, nanana, tu calcules à mort. Trop bien. Excellent jeu. Voilà. Ça, c'est le meilleur jeu de lancer du monde.
Et du coup, maintenant, il nous faut un jeu sur table équivalent.
Ouais, franchement, je suis sûr que les dynamiques du Mulky peuvent être faisables en jeu de société.
Je pense qu'il y a de la place pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le Mulky, hein. Rien à voir, mais juste effectivement, comme tu dis, la dynamique,
ouais, le
principe de revenir en arrière dans le score, qui met vraiment là, je pense, la partie en suspens. Toi, t'as vraiment ce côté, attends, si je dépasse. Je reviens en arrière, je me fais dépasser par tout le monde, quoi.
Et puis, ce truc aussi de... T'as déjà deux ratés, si t'en fais un troisième, t'es éliminé, mais l'autre équipe, elle est, si elle touche la 10, elle a gagné, tu vois. Et donc, tu dis, purée, est-ce qu'on tente de leur virer la 10, tu vois, mais au risque de mourir, tu vois, ou est-ce qu'on mise sur le fait qu'ils vont la rater? Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça qui se posent comme question. Et ça, j'adore, tu vois.
Au final, est-ce que le jeu sur table, est-ce que le truc qui s'en rapproche le plus, c'est pas Circles?
Ouais, non.
Ah, t'as pas la mort subite, mais t'as la victoire immédiate, ouais. Ouais, c'est l'inverse.
Comment? T'as pas le calcul que t'as comme Mulky à te dire comment je vais taper, dans quelle zone je vais taper? Pour avoir le plus de chances de...
Ah bah si, quand même.
À la fois mettre des points et à la fois...
Mettre des points et dégager quelqu'un.
Dégager quelqu'un. Ah ouais, c'est vrai.
Quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Je suis d'accord, c'est pas stricto sensu, c'est même... Mais en termes de... Je sais pas, de sentiment de jeu, avec des mécaniques différentes, je trouve que c'est peut-être un des trucs les plus proches.
C'est vrai. C'est peut-être pour ça que Circles est un jeu aussi génial. Ouais. Peut-être qu'on aurait dû le citer en descendant.
Alors que pour le coup, il est plus pichenette que lancé. Hein.
Ouais.
Mais toi, dans cet esprit en tout cas, de dire ok, c'est un jeu qui a rien à voir, mais finalement.
Bah, ce serait marrant. Moi, j'aimerais bien voir ça en jeu qui soit pas d'adresse ou de dextérité.
Ouais, ce serait, oui, bien sûr. Non, mais c'est plus là-dedans que je cherchais, mais celui-ci m'est venu quand même. Tu vois, en fait, c'est peut-être le plus proche. Bon.
Si vous voulez co-designer ça avec moi, envoyez-moi un MP et je me ferai un plaisir.
De travailler là-dessus. Bon, bien. Allez, on va passer à la suite. On va pas parler de l'auteur cette fois-ci.
Ben, on le connaît pas.
Il n'y a pas de crédité.
Il n'y en a pas de crédité, donc on peut pas faire la ludographie ni rien. Donc, hop, ça dégage, pas d'auteur.
Allez, on va sauter tout de suite à la dernière section du coup de l'émission. On va parler des anecdotes.
Eh ben, première anecdote, j'étais tombé un jour en tournoi de Mulky sur un jeu de cartes de variantes de Mulky. Ah. Un petit peu comme, tu sais, Mexican Hold'em Poker, je sais pas si t'avais connu ce truc-là.
J'ai jamais joué, mais je vois le principe. Voilà, Tempête sur l'échiquier.
Ah, pas vraiment
non,
Tempête
pas encore,
sur l'échiquier,
ouais.
Parce que Tempête sur l'échiquier, c'est vraiment, t'as un paquet et à chaque tour, tu vas rajouter un effet, tu vois.
D'accord, là, c'est pas ça.
Mexican Hold'em Poker, c'était un ensemble de variantes et à chaque tour, on en pioche une, tu vois.
Okay.
Là, c'est pareil avec le Mulky, tu vois. T'as un ensemble de variantes, à chaque tour, on en pioche une et on va jouer de cette manière. Enfin, à chaque manche, on va jouer avec une variante. Et il existe aussi des keys, il y a une extension au Mulky, figure-toi.
Non.
T'as des keys supplémentaires qui existent comme ça.
Il y a la 13.
Alors, je sais pas qu'est-ce qui... Je me souviens plus. Je crois que déjà, il y a une
key
qui 5. Fait x2. Je crois qu'il y a un x2 qui fait rien si tu la renverses toute seule, mais quand tu la renverses en groupe, tu fais deux fois le nombre de keys que tu as renversé.
C'est pas con, en vrai.
Et
même toi, quand je dis la moins 5, en fait, en vrai, c'est pas con.
Je crois qu'il y a des keys négatives aussi. Mais je me souviens plus. Franchement, je me rappelle avoir vu ça. C'est vraiment les trucs très exotiques que tu trouves que vraiment au tournoi de Mulky, genre à l'Open de France, tu vois. Mais ouais, il me semble bien que ça existe, ces trucs-là. En tout cas, le jeu de cartes avec des trucs spécifiques, ça, c'était sûr que ça existait.
Ok.
Et je crois aussi que, outre le mini Mulky, il existait une espèce de mini Mulky, mais sauf que tu tirais avec une genre d'arbalète.
Ouais, j'ai oublié de le rechercher. Je voulais le mettre et j'ai oublié de le rechercher.
Tu vois de quoi je parle? T'as déjà testé ce truc?
Ouais, c'était édicté chez Ferti.
Ok.
Mais alors je crois que ça devait être le système de score qui devait être le même. Je suis pas certain, mais.
Oui, mais c'est des keys de Mulky en
vrai. Ouais, c'est ça.
Mais juste, ouais, c'est
genre. Tu tires avec une arbalète.
Ouais, genre d'arbalète, tu la charges et puis bam, ça tire le Mulky dans la gueule des keys. Bon, c'est marrant sur le coup, mais je trouve ça pas plus intéressant que ça. C'est quand même mieux de jouer au vrai Mulky.
Alors, il faut savoir qu'il y a, visiblement, il y a tout un vocabulaire autour du Mulky.
Bien sûr.
Je sais pas à quel point c'est vrai, en fait, parce qu'il y a des trucs qui me paraissent tellement absurdes que genre, il y aurait un terme pour parler d'un joueur perturbateur, tu vois. Alors, je sais même pas si je vais réussir à le prononcer, ce machin. C'est Bolkaja.
Ok.
Bolkaja, je sais pas, tu vois. Se moquer d'autrui pour ses mauvais résultats. Alors, c'est un verbe, du coup. Je sais pas comment tu le conjugues. Me lata.
Ok. Donc, tu me lata, t'es en train de te moquer des autres parce qu'ils jouent mal.
Ouais. Est-ce que tu parlais comme ça, toi? Quand tu faisais des tournois de Mulky?
Non. Par contre, je connaissais les, le Molkari. Ça, je connais.
Alors, ça, c'est la ligne de lancer, c'est ça?
Voilà. C'est le truc derrière lequel tu dois te mettre pour pas que tu dois pas dépasser quand tu tires, quoi.
Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit que le lanceur, ça, c'était de là, en gros, que venait le nom du jeu, le Mulky. C'était le lanceur.
Non, et moi, pas le lanceur. Ah non, c'est le bâton, le Mulky. Le bâton que tu lances.
Bah oui. Bah, ah ouais. C'est le lanceur, ça. Enfin, c'est le.
Ah oui, ok,
ouais. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que ça s'appelait le Ticu.
Ah bah, je sais pas. On m'a peut-être dit n'importe quoi après.
Bon, je sais pas. En tout cas, si tu veux acheter un lanceur de remplacement, bah, il faut chercher sous le nom Ticu. T-I-K-K-U.
Dédicace à nos amis québécois, un Ticu, c'est-à-dire un enfant, quoi.
Voilà, et puis il faut quand même qu'on cite, je vous ai parlé de Christophe Cégé, qui nous a donné pas mal d'informations pour réaliser cette émission. Donc Christophe Cégé est en train de rédiger un livre qui s'appellera donc La Passion du Mulky, qu'il coécrit avec Ludovic Misura et Alexis Beuz, et ce sera édité par Praxeo. Du coup, j'ai découvert cet éditeur, ouais. Praxeo, hein, qui édite donc des bouquins et des trucs ultra pointus. Alors il y a plein de bouquins sur le Go, et ouais, j'ai découvert qu'ils avaient écrit des bouquins sur Mémoire 44 et sur A Few Acres of Snow, avec des guides stratégiques, mais avec des tableaux de calcul de ouf, quoi. Il y a quelques ouvrages qui sont en libre accès. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, c'est assez impressionnant.
C'est à cause d'eux qu'on a découvert la martingale sur A Few Acres of Snow.
C'est possible. Je crois que c'est un ouvrage d'Alexis Beuz, qui est donc un des co-auteurs du futur La Passion du Mulky. Voilà. Donc on vous encourage à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là si ça vous intéresse. Et on remercie encore une fois grandement Christophe Séjean en particulier, hein, pour ces informations. Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter?
Bon, non, je pense que j'ai déjà dans la partie paradigmatique là.
Quel est ton classement mondial?
Non, très nul. Alors attention, j'ai fait des tournois, mais je suis pas incroyable. Hein. Je suis jamais allé à aucune finale, ni rien.
Il y a des rangs de classement de joueurs dans le Mulky, non? Genre pas... comme au tennis, tu sais.
Comment ça? Tu veux dire genre
des rangs?
Des rangs.
Des rangs.
Non, il n'y a pas de ça.
Non.
non, je suis gros nulos.
Ah bah tu vois qu'il y a des rangs.
Mais ça fait longtemps en vrai que j'ai pas joué au Mulky. Hein. Mais bon, c'est toujours un plaisir de le ressortir de temps en temps. Mais ça fait longtemps que j'ai pas, tryhard, comme on dit, ouais, dans les jeux vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas
exercé vraiment.
Exercé vraiment. Ouais. Bah, depuis, je tryhard le Mahjong et Magic.
Donc, faut pas tout faire.
On peut pas faire tous les tournois du monde. Hein. Voilà, bah, et toi, je sais pas si t'as d'autres anecdotes sur le Mulky ou quoi.
Non, pas grand chose à rajouter.
T'as jamais fait de tournoi?
Non, non, j'ai jamais fait de tournoi de Malclu. Non, je joue pour le plaisir. De temps en temps.
C'est bien aussi.
Voilà.
Est-ce que tu joues au cube?
Joué non, au cube? J'ai jamais joué au cube.
Ah, ça c'est très bien le cube.
Eh ben écoute, j'essaierai à l'occasion. Voilà, voilà. Eh ben écoute, on va se dire au revoir alors, professeur.
Bah ouais. Et on va aussi dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Alors, proxy, c'est avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Mastodon, sur Blue Sky, sur... voilà, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Donc, pensez à, sur ces réseaux sociaux, à partager notre émission pour montrer à tout le monde à quel point le Mulky, ce n'est pas un jeu de société.
C'en est presque un, ou c'en est un selon comment vous avez envie de voir le monde.
Et surtout, vous pouvez aussi en parler autour de vous. Rejoignez-nous également sur Discord, si vous voulez discuter avec moi de grands débats sur l'esthétique et tout ça, et sur pourquoi c'est un sport ou non. Et vous pouvez aussi devenir donatrice ou donateur si notre émission vous plaît. Pour ça, il faut se rendre sur le site. Et vous pourrez trouver notre PayPal. La semaine prochaine, vous aurez les chroniques. Alors Cyrus, je crois que toi t'es dans les chroniques la semaine prochaine.
Ah oui, dans Joueur Né.
Voilà, et moi je serai dans les analyses du Pionfesseur, donc on y sera tous les deux. Vous entendrez notre douce voix. Le mois prochain, ce sera le pour et le contre. Et donc d'ici là, n'oubliez pas les grands jeux. Et surtout, jouez bien.
En 2006, il y a une société donc qui on s'en fout. En 2000,
il y aura des bons bêtisiers. Oh, putain. En 2006, on s'en branle.
En 2010, non, faut que j'arrête de rigoler parce que du coup la transition elle va être bizarre.
De rien à péter, société de noblesse du Mulky, on s'en branle.
Sérieux, la noblesse du Mulky.
C'est noble.
C'est le bois qui est noble.
C'est le bois, ouais.
En 2024, il y a des premiers championnats du monde qui sont organisés.
En 2004.
J'ai mis quoi ?
T'as dit 2024.
En 2010, le Malchus s'implante en Australie, avec les premiers championnats du monde en Australie. Ce serait visiblement la première exportation.
Non, les championnats nationaux.
Voilà.
Allez, recommence.
C'est un bug. Ma tablette, elle s'est foutue en mode économie d'énergie, donc elle arrête pas de s'éteindre. C'est super bon.
Enregistrer un podcast, c'est un die and retry. Si vous écoutez le bêtisier, il y a genre, je pense, 3 trucs d'affilée dans le bêtisier qui ont été faits en 2 minutes, chrono.
En fait, pourquoi il dit ça s'implante en Australie, ça s'est implanté déjà ailleurs?
Je sais pas, on le dit pas, on peut dire 2010, on s'en fout aussi.